Europe Matin Weekend.
Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme en ce samedi matin. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion. Pour l'info, vous le savez, hein, Europe Matin Weekend, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités à 6h20. L'invité conso, René-Marc Chicly, président du syndicat des entreprises du tour opérateur, sera avec moi, puisque les chiffres sont repartis comme avant le Covid. Et puis à 7h10, Antoine Bozio, économiste, spécialiste des retraites, reviendra sur ce sujet brûlant. Faut-il repousser l'âge légal de départ à 65 ans. Vanessa Zah nous fait faire du canicart aujourd'hui dans la forêt de Troncès, c'est en Auvergne. Et après tous ces efforts, on aura bien mérité un petit aligot avec Olivier Pouls. On parlera culture, évidemment, avec un dernier film très, très touchant à voir ce week-end, Les enfants des autres. Et puis, Mathieu Alterman lui viendra nous parler de l'héritage de la nouvelle vague. Quant à Christophe Bordet, il va nous expliquer comment rénover sans polluer. Voilà le menu, soyez les bienvenus. On est très heureux de vous réveiller ce matin. Il est 6h.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Et la première édition de ce week-end, c'est avec Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
Bonjour Léna, bonjour à tous. Les larmes de Roger Federer, mais aussi celles de Raphaël Nadal hier soir à Londres. Le Suisse a mis fin à plus de 20 ans de carrière après un dernier match en double. Europe 1 était sur place.
À la une également, les Occidentaux qui menacent la Russie de nouvelles sanctions après l'ouverture de référendums d'annexion de territoires ukrainiens. Kiev engrange les soutiens, y compris de la part d'un célèbre acteur français. Nous l'entendrons.
Et puis les pompiers, eux aussi, demandent du soutien. Réunis en congrès jusqu'à ce soir, ils pensent forcément à l'été brûlant qu'ils viennent de vivre.
Et malgré les incendies, la saison estivale a été plutôt bonne pour les professionnels du tourisme. C'est ce qu'on verra dans la prochaine demi-heure avec René-Marc Chicly, président du syndicat des entreprises du tour opérateur, tour operating. Mais avant cela, une première tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Et bien, changement radical de temps ce week-end. Retour quasi partout des pluies, des averses, des orages, notamment dans le sud-est et dans le nord de la France.
Merci Valérie, on vous retrouve à la fin du journal. Il s'en va donc sur une défaite, mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on retiendra de la carrière de Roger Federer.
Mais non, on va plutôt garder ses 103 titres, 20 grands chelems, 310 semaines en tête du classement ATP. Le Suisse a construit l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du tennis et à 41 ans, il a donc finalement choisi la Laver Cup pour faire ses adieux. Un dernier match en double avec son ami et rival de toujours, Raphaël Nadal. Seule ombre au tableau, les deux champions se sont inclinés face à la paire américaine Sock Tiafoe. Un reportage sur place à Londres de Cédric Chasseur.
La bataille aura duré près de 2 heures. Après avoir lutté avec ses émotions, Roger Federer pose sa raquette pour la dernière fois. Le Suisse, dans les bras de ses coéquipiers, craque. Cette fois, il a compris sa carrière de joueur est bel et bien derrière lui. Alors même si l'homme aux 20 titres du Grand Chelem dit avoir passé une très belle journée, on sent la détresse de quitter ce monde qui était le sien depuis 25 ans. À l'heure des remerciements, entre les sanglots, Roger Federer tente de manier l'humour, mais face au sien, le Suisse est rattrapé par plus fort que lui.
Tout le monde est là, les garçons, les filles, ma femme qui m'a tant supporté. Elle aurait pu me demander d'arrêter il y a longtemps, mais elle m'a dit de continuer, m'a encouragé à jouer. C'est incroyable, merci.
Assis sur le banc de l'équipe européenne, Raphaël Nadal pleure lui aussi, imité par de nombreux spectateurs qui refusent de quitter l'O2 Arena comme pour reculer le moment des adieux. Mais au terme d'une cérémonie d'une vingtaine de minutes où la chanteuse Ellie Goulding sera parvenue à tirer quelques larmes supplémentaires aux Suisses, l'heure de se dire au revoir est arrivée. Nous sommes le 24 septembre 2022 et le tennis se joue désormais sans Roger Federer.
Le reportage de Cédric Chasseur. Et si on met quand même de côté l'émotion, et bien avec cette défaite de Federer et Nadal, l'équipe européenne et l'équipe du reste du monde sont pour l'instant à égalité de partout à la Laver Cup.
Dans le reste de l'actualité, Clotilde, le G7 qui appelle tous les pays à rejeter les référendums d'annexion de régions ukrainiennes organisés par la Russie.
Ouais, le scrutin est ouvert dans les régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk et dans des zones sous occupation russe à Kherson et Zaporijia. Les votes s'achèveront mardi. mardi. En réponse, le président américain Joe Biden a assuré que les États-Unis allaient travailler avec leurs alliés pour infliger de nouvelles sanctions économiques rapides et sévères à Moscou en cas d'annexion. De son côté, Volodymyr Zelensky appelle le monde à condamner ce qu'il appelle des pseudo-référendums.
Et justement, le président ukrainien a aussi reçu un soutien plutôt inattendu.
Et oui, en visioconférence, il a dialogué avec l'acteur français Alain Delon. Écoutez.
Je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous.
Je ne serai jamais un président aussi génial que vous, aussi méritant que vous. Jamais.
C'est très important pour nous aujourd'hui. Lorsque les gens célèbrent, s'engagent, ils peuvent réellement aider, car la parole est une arme et parfois frappe plus fort qu'une arme réelle sur un champ de bataille.
Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal, c'est le minimum que je puisse faire, parce que si je pouvais faire plus que ça, je ferais plus que ça. Parce que vous ne méritez pas tout ce que vous vivez, vous ne méritez pas ce que vivent l'Ukraine en ce moment et ce que vit votre peuple.
Un extrait de l'entretien entre Volodymyr Zelensky et Alain Delon diffusé sur TV5 Monde.
Il est 6h05 sur Europe 1 et on va parler à présent du 128e congrès des sapeurs-pompiers de France. Il a débuté mercredi. Il se termine ce soir au parc des Expos de Nancy.
Oui, congrès forcément marqué par les incendies de cet été. Plus de 65 000 hectares de végétation ont brûlé depuis le début de l'année. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu à Nancy ce matin et les pompiers ont plusieurs réclamations à lui faire. Reportage de Mélie.
Dans les allées du Congrès, les incendies hors normes de cet été sont encore dans tous les esprits. David Brunner, président des pompiers de Gironde, a lutté des semaines avec ses hommes contre les flammes.
On a pu encore répondre présent avec ces personnels qui aujourd'hui sont fatigués, épuisés, fiers de ce qu'ils ont fait aussi, mais ça a été une saison rude.
Et qui a révélé un manque d'effectifs sur le terrain. Éric Florès, vice-président de la Fédération nationale.
On a perdu 30 000 sapeurs-pompiers volontaires en une vingtaine d'années, plus de 1300 casernes. On a détricoté l'organisation des sapeurs-pompiers, un peu comme on a détricoté l'organisation hospitalière française. Donc il faut regagner ce maillage territorial.
Il faut aussi, dit-il, mettre plus en valeur le travail des sapeurs-pompiers volontaires.
Le taux de l'indemnité des sapeurs-pompiers volontaires varie entre 7,5 et 10,5 € de l'heure. Lorsque je prends une babysitter, je la paye plus que les 10 € de l'heure. Et puis nous, ce qu'on attend du gouvernement, c'est aussi de l'aide aux employeurs qui recrutent des pompiers volontaires avec de la défiscalisation. Et faire savoir aux employeurs que c'est un atout d'avoir un pompier volontaire et pas une contrainte.
Il manque aujourd'hui 50 000 volontaires en France, d'autant plus essentiel qu'avec le dérèglement climatique, cet été dévastateur ne sera sans doute pas le dernier. Nancy, Mélina Fachin, Europe 1.
Il emballe toujours de nombreux produits. Le plastique fait de la résistance, Clotilde.
La loi anti-gaspillage de 2020 fixait pourtant des objectifs de réduction d'emballage, notamment en plastique. Mais certains industriels ne font pas assez d'efforts. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par une association de consommateurs, Barthélémy Philippe.
Et oui, le plastique, c'est loin d'être fantastique pour la planète. Et pourtant, certaines marques continuent à en abuser. L'association CLCV a passé au scanner 250 produits alimentaires. Conclusion, on retrouve des films en plastique totalement superflus autour de certaines boîtes de thé ou des plaquettes de chocolat. L'association épingle aussi des paquets d'amandes ou de ravioles qui contiennent, écoutez bien, jusqu'à 55% de vide. Une pratique que dénonce François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs.
On a un certain nombre de produits qui ont tendance à vendre du vide. Dans l'emballage, qui est d'une très grande taille, le produit n'occupe que les deux tiers, voire que la moitié de la place. C'est au-delà de l'écologie, hein. C'est vraiment une question quand même de loyauté du commerce.
Heureusement, ces packaging trompeurs ne concernent qu'un petit nombre de produits. L'enquête décerne même quelques bons points, des pizzas sans boîte, des fromages blancs qui ont abandonné leur couvercle rigide. Vous l'aurez compris, CLCV cherche à faire évoluer les habitudes de consommation des Français pour pousser les industriels à réduire leur production de déchets et ainsi protéger la planète.
Les précisions de Barthélémy Philippe.
Une planète qui va d'ailleurs bouger cet après-midi à Paris.
Et oui, c'est le retour de la Technoparade. Après 2 ans d'absence, la 24e édition partira de la place d'Enfer Rochereau jusqu'à Nation. Et parmi les chars qui y s'élanceront, il y aura Marie Jiquel, celui de la DJ ukrainienne Xenia.
Il est loin le temps où Xenia Oua jouait de l'accordéon dans sa province de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine. Star dans son pays, très connue par le monde de la nuit, Xenia Oua a également monté son label de musique électronique à Kiev. Mais ça, c'était avant la guerre, la jeune femme a dû quitter l'Ukraine, vinyle sous le bras. Ces platines ont depuis fait vibrer la cour de l'Élysée pour la fête de la musique et fait danser le couple présidentiel.
On peut dire aussi la solidarité qui est la nôtre à l'égard de l'Ukraine.
Zegnaoua revient donc ce samedi en invité d'honneur sur le char de Technopole, celui des organisateurs. À ses côtés, le char de l'Institut du Monde Arabe et celui du français Die Avner.
Voilà, les chars de la Technoparade qui partiront à 14h de la place d'Enfer Rochereau à Paris.
Merci beaucoup. Premier journal présenté par Clotilde Dumais. À tout à l'heure.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Valérie Darmon va faire très attention à ce qui se passe dans le sud-est. Il y a des intempéries qui s'annoncent.
Oui, il y a des intempéries dans le sud-est à partir d'hier soir, depuis hier soir plutôt, et jusqu'à demain. Et puis surtout à Paris, la technoparade, elle va avoir lieu aussi sous la pluie. De toute façon, il y a de la pluie quasi partout. Alors c'est vrai que c'est dans le sud-est que le temps se dégrade le plus. Ces précipitations, elles vont être fortes, localement orageuses. Elles sont en train de se décaler sur la région PACA ce matin, jusqu'en fin de journée. Puis petit à petit, elles vont cesser avec le retour de quelques éclaircies et les cumuls pourrait être important, notamment sur la Corse d'ailleurs, pour ce soir. C'est pas mieux ailleurs. Donc le nord-ouest de la France connaît une activité pluvieuse marquée. Sur l'ouest des Hauts-de-France et sur la Normandie, le ciel couvert apporte de fortes précipitations là aussi toute la journée, avec une tendance orageuse. Donc aucune région n'échappe aux averses. Elles sont plus nombreuses sur la façade est ce matin et sur le sud-ouest, en particulier cet après-midi, sur le Pays Basque et sur les Pyrénées.
Et les températures, elles sont toujours fraîches?
Alors elles sont fraîches l'après-midi. D'accord. Elles baissent sérieusement là l'après-midi. Par contre, ce matin, il fait beaucoup moins froid que cette semaine. Actuellement, il fait 9 à Nancy, 10 à Aurillac, 11 à Strasbourg, 12 à Cognac et Clermont-Ferrand, ainsi que Bordeaux, 13 à Lille et Paris, 15 degrés à Montélimar, 16 à Montpellier et 18 à Perpignan. On va pouvoir tomber l'écharpe le matin, mais par contre, sortir les parapluies pour l'après-midi.
C'est sympa comme programme, merci beaucoup Valérie Darmon. À tout à l'heure, dans un instant, c'est la question conso, c'est reparti comme avant le Covid. On verra ça d'ici quelques instants avec René-Marc Chicly. Mais avant cela, votre rendez-vous évidemment, les pronostics. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour les naïcs, c'est sur les 4300 mètres du parcours de Steeplechase d'Auteuil que va se courir ce quintet. Et parmi les 16 partants, j'ai choisi comme favori Raffles Classic, le numéro 15, qui certes va débuter à Auteuil. Mais sachez que de par sa façon de sauter, il a visiblement toutes les qualités nécessaires pour s'illustrer d'emblée sur ce tracé sélectif. L'opposition sera constituée par Captain Speaking, le numéro 2, pas revu depuis sa victoire dans une épreuve similaire le 21 mai à Auteuil, mais qui, je le sais, va se présenter fin prêt après avoir bénéficié cet été de quelques jours de vacances bien mérités. Derrière ces deux priorités, je vous recommande les numéros 11, Guardamar, qui a déjà prouvé par le passé qu'il avait largement les moyens de très bien faire à ce niveau, 14, Gaul, pour lequel son entraîneur Gabi Linders en attend une totale réhabilitation après toute une série de performances en demi-teinte, et 10, Starco, irréprochable, n'ayant jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 11 dernières sorties en steeplechase. Enfin, les numéros 4, Malbec du Matan, 16, Écoute en tête, et 12, Mathieu Faréon, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 15, 2, 11, 14, 10, 4, 16 et 12.
C'est bien noté. Merci Thierry Léger.
Europe 1,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Et qui sont avec vous tous les lundis, du lundi au vendredi, entre 11h et midi, elles nous chouchoutent. Et ce matin, elles nous apprennent quelque chose, les filles. Le sport, quel meilleur remède pour se reconstruire? On voit ça.
Pour commencer, Sabine, parlez-nous de votre association. Je crois que vous accompagnez des femmes victimes d'abus sexuels en leur faisant faire du sport, c'est bien ça ?
Exactement. Cette association a pour but en fait, d'utiliser le sport dans les parcours de reconstruction des femmes victimes de violences, de toute forme de violence. Et donc, c'est une pratique adaptée, du karaté particulièrement. Voilà,
il y a d'autres sports ou c'est que le karaté ?
Dans la méthode, on utilise d'autres sports.
Mm-hmm. C'est Laurence Fischer, qui est une ancienne championne de karaté, qui a fondé cette association. Comment lui est venue cette idée d'utiliser le sport comme outil de reconstruction ?
Laurence est une athlète de haut niveau, triple championne du monde de karaté. Et à la fin de sa carrière, elle s'est beaucoup investie sur utiliser le sport dans l'éducation, plutôt sur les valeurs éducatives du sport. Et dans son chemin, donc, elle rencontre rencontre, en fait, elle fait une rencontre assez incroyable avec le docteur Denis Mukwege. On dit l'homme qui répare les femmes, qui est co-prix Nobel de la paix 2018. Et en fait, cet homme incroyable a inventé, en fait, en République démocratique du Congo, le premier accueil holistique pour des femmes qui sont victimes d'une violence extrême, puisque c'est le viol utilisé comme arme de guerre. Et donc, dans cet accueil global, on répare ces femmes, c'est-à-dire qu'on les opère, on prend soin aussi d'un point de vue psychique, on les intègre aussi dans un parcours social et aussi juridique. Et en fait, Laurent s'aperçoit que rien n'est fait sur le corps, alors que c'est par le corps qu'est venu le traumatisme.
Pauline, dès l'enfance, vous, le sport a eu une place très importante dans votre vie, c'était presque une drogue. Et il y a 4 ans, donc tout a failli s'arrêter, vous avez eu un grave accident. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé ?
Oui, le sport a toujours fait partie de ma vie et c'est vrai qu'il y a 4 ans, je ne savais pas que ça allait l'être encore plus puisque j'ai été victime d'un accident fauché sur le trottoir, un trottoir parisien, pas très loin de vos studios d'ailleurs. Et j'ai perdu ma jambe dans cet accident. Et je pense que j'ai tout de suite compris que le sport allait être pour moi le meilleur outil de reconstruction encore plus qu'avant et que j'allais devoir me réapproprier totalement mon corps, mon nouveau corps, à travers le sport, à travers l'effort et me mettre tête baissée dedans pour finalement transformer ce nouvel handicap.
Donc une de vos premières pensées quand vous vous êtes réveillée amputée d'une jambe, ça a été comment se remettre au sport vraiment ?
Alors ça a été plus que ça, il faut savoir qu'en salle de réveil, quelques heures après l'accident, j'ai vu mes proches très inquiets et je pense qu'ils avaient besoin de savoir si j'étais toujours la même, tout simplement. Et je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Je savais pas alors dans quelle discipline, ni comment, ni si j'allais intéresser quelqu'un. Mais c'était une façon de me promettre à moi-même aussi que le sport allait me sauver. Et peut-être, et c'était mon souhait, au plus haut niveau. Et vraiment, le sport m'a sauvée dès le départ.
Sabine, dans votre association Fight for Dignity, les femmes ne sont pas à l'origine justement des grandes sportives. Quand elles arrivent, par exemple, et participent aux ateliers de karaté, elles ont elles aussi des objectifs de reconstruction comme ça ou en tout cas vous les aider à les trouver ces objectifs.
Je crois que quand elles viennent, elles sont déjà, elles ont envie, elles savent que cet atelier va leur apporter quelque chose, mais elles ne savent pas quoi. L'autre point, c'est que c'est un moment pour elles où elles vont être toutes seules, où elles vont s'occuper d'elles, où elles vont s'occuper de leur corps, où elles vont faire une pause pendant 1h30. Et donc ça, c'est super important déjà de s'autoriser ça pour elles dans leur quotidien.
Pauline, quand on est justement comme vous, très sportif de base, on aime, j'imagine, se lancer des défis du type « dans 3 mois, je dois par exemple être prête pour tel tournoi ». Est-ce que ce réflexe de sportive vous a aidé pendant la rééducation, c'est-à-dire savoir se fixer des objectifs ? Est-ce que ça aide à se reconstruire plus vite ?
Je pense effectivement que je partais déjà avec ce bagage-là de sportive, de compétitrice, donc à fonctionner effectivement avec des objectifs. Après, moi, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui n'avaient pas le sport pour autant dans leur vie et qui, malgré tout, dans la rééducation, s'en servaient énormément. Et puis, on était tous dans la même galère à devoir faire une activité, peu importe le handicap, peu importe la blessure qu'on avait, on était ensemble. Donc, ça porte énormément. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le paralympisme vient des centres de rééducation, puisqu'on s'est aperçu effectivement que ça avait des vertus très positive sur les blessés. Et voilà, moi j'ai le souvenir de gens qui, sans pour autant avoir été des grands sportifs avant, étaient dans le même bateau avec nous, donc on faisait tous du sport.
Alors vous êtes très inspirante pour nous, vraiment c'est incroyable, parce que je crois même que lorsque l'hôpital vous donnait des permissions de sortie, bah vous faisiez quoi ? Vous alliez encore à la salle de sport, c'est incroyable.
C'est vrai que moi, dès que j'ai pu sortir de l'hôpital, même avant la rééducation, même avant de réapprendre à marcher, avec des permissions de sortie, effectivement j'allais à la salle, même sans prothèse, donc sur une jambe, je faisais du rameur, j'essayais de porter des charges pour vraiment tout de suite réhabituer mon corps à ce que ça allait être par la suite, parce que je ne me suis jamais laissé le choix et le sport m'a permis de confirmer qu'on peut toujours s'en sortir.
Qu'est-ce qu'on peut faire, Sabine, comme sport dans vos ateliers ? Alors, on a parlé du karaté, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités ou d'autres travaux corporels que vous proposez ?
En fait, sur l'heure et demie d'atelier, il y a en fait 25 minutes de karaté, on va dire directement de karaté. Sinon, on travaille beaucoup sur des techniques de yoga, des techniques de sophrologie, de méditation. L'idée est vraiment de réapprendre aussi à respirer et à contrôler son corps. Donc voilà, on utilise toutes ces petites méthodes à travers différents moments.
Sabine, il y a un comité scientifique d'ailleurs dans votre association qui est là aussi pour mesurer, analyser les bienfaits réels apportés à ces femmes. Je crois qu'il y a une gynécologue, enfin il y a différents spécialistes scientifiques. Quels sont leurs retours jusque-là ?
En fait, notre objectif, dès que nous avons développé le premier atelier en France, c'était vraiment de mener une recherche pour justement démontrer l'impact du sport dans les parcours de reconstruction, parce que l'objectif lointain, mais on espère pas si lointain, c'est d'arriver à du sport sur ordonnance et qu'effectivement, les médecins puissent prescrire cette méthode.
Ça fait longtemps,
pour les femmes.
On l'attend toujours réellement en pratique.
Mais on le voit aussi à travers nos témoignages aujourd'hui que le sport est vraiment un outil de reconstruction important.
Vous me disiez tout à l'heure, Sabine, que c'était pas forcément pour se défendre le karaté, mais j'ai quand même l'impression que dans la reconstruction, on veut un truc un peu plus costaud, non ?
Je pense que chacun doit trouver la discipline qui lui va. Ça peut être la course à pied, ça peut être quelque chose de plus intense. Mais en fait, le propre de la discipline qu'on va trouver, c'est vraiment encore une fois d'essayer d'oublier le traumatisme qu'on a vécu et essayer de se réconcilier avec son corps, son nouveau corps. Encore une fois, il n'y a pas de bon sport. Il faut trouver juste le sien, en fait.
Bien fait pour vous, que vous retrouvez tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 11h à midi.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Europe 1, on fait le point sur toute l'actualité avec Clotilde Dumay.
Il voulait dénoncer les crimes climatiques des ultra-riches, des militants d'attaque et d'extinction rébellion ont bloqué un terminal de l'aéroport d'affaires du Bourget hier. Ils y sont restés environ une heure avant d'être délogés et emmenés par la police. Le groupe ADP dit vouloir porter plainte et précise que les vols n'ont pas été perturbés. Nouvelle manifestation à Téhéran, plus d'une semaine après le décès de Mahsa Amini. La jeune iranienne avait été arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Depuis, les manifestations s'enchaînent à Téhéran. Au moins 50 personnes auraient été tuées dans la répression par les forces de sécurité, d'après l'ONG Iran Human Rights. Le film Saint-Omer représentera la France aux Oscars. Le long métrage d'Alice Diop a déjà remporté le grand prix du jury et le prix du premier film à la Mostra de Venise. Il s'inspire d'une histoire vraie et raconte le procès d'une immigrée sénégalaise accusée d'avoir tué son bébé en l'abandonnant sur une plage. La cérémonie des Oscars aura lieu le 12 mars prochain à Los Angeles. Et puis en Ligue des Nations, la Hongrie s'est imposée 1-0 face à l'Allemagne. Elle jouera une qualification pour le carré final lundi contre l'Italie, également victorieuse hier face à l'Angleterre. Les Anglais qui sont, eux, relégués en Ligue B après cette nouvelle défaite.
Merci Clotilde. Il est 6h20, l'heure d'accueillir mon premier invité.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier. L'interview conso et le CETO qui retrouve ses belles couleurs. Le CETO, c'est le syndicat des entreprises du tour operating dont René-Marc Chicly est président. Bonjour.
Bonjour.
Alors, les tours opérateurs français se sont refait une petite santé pendant l'été. Si on veut résumer, ça y est, vous avez mangé votre pain noir un peu, c'est ça qu'on peut dire.
Oui, on a vraiment le sentiment qu'on a répondu présent à toutes ces demandes de clients qui voulaient à tout prix partir cet été. Même si le début de l'année, ça a été assez compliqué avec le conflit ukrainien, mais à partir du mois de mars, avril, mai, on a eu un engouement total sur les réservations. In fine, on fait un été qui ressemble presque à 2019, qui a été une année de référence.
Alors justement, en termes de chiffres, à quoi il a ressemblé cet été, si on peut comparer ?
En termes de recettes, bien évidemment, on est à plus 10% parce que on a répercuté toutes les augmentations, aussi bien sur le kérosène, mais on a eu aussi d'autres augmentations sur l'ensemble de la chaîne touristique. Donc ça, une recette qui augmente de 10%. Et on est sur un trafic plus en retrait de l'ordre de 15% quand même, moins de volume, une recette qui augmente, et globalement, on est à moins 9% par rapport à 2019. Certains acteurs d'ailleurs sont bien plus, d'autres moins, mais ça c'est vraiment bien, quoi. On ne s'attendait pas à ça.
Alors justement, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène, cette envie de repartir comme ça ? C'est vraiment le post-Covid ?
C'est le post-Covid. Les gens étaient bloqués pendant presque deux ans et demi, 2020, 2021. Ceux qui n'hésitaient pas, qui voulaient voyager, hésitaient énormément, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fermetures de destinations. Ce qui nous a fait beaucoup de mal, c'est des fermetures, des réouvertures, des refermetures, des vagues et des nouvelles vagues. Donc ça, ça a été compliqué. Et on l'a vu en janvier. En janvier 2022, il y a eu une prise de commande incroyable qui s'est un peu calmée après le 24 février, donc le conflit, mais qui a repris tout de suite à fin mars. Les gens ont envie de retrouver leur destination, d'aller au soleil, d'aller à l'étranger. Ça, c'est vraiment ce qu'on a constaté.
Alors justement, où est-ce qu'ils sont partis en grande majorité, les Français ? D'abord, proche de chez nous, loin ?
proche de chez nous, loin aussi, mais c'était un peu plus lent la remise à niveau des destinations. Ça a été un peu les États-Unis qui ont marqué le pas, mais ils sont restés sur l'Europe du Sud, l'Espagne, alors Canaries, Baléares, c'est vraiment et la Grèce, c'est globalement les deux premières destinations de cet été. Elles sont à peu près au même niveau. Grande satisfaction de la réouverture de la Tunisie, qui est quand même très avantageuse pour les voyages, donc qui arrive en troisième position. Sicile, Sardaigne sur l'Italie avec le continent et la France. Nous vendons de la France, mais pas un grand niveau, mais qui démontre que les Français sont quand même voulu rester en partie en France. Et le Maroc et la Turquie. Et un peu plus loin, le Portugal, ça a été pour les grandes destinations de cet été.
C'est vrai que quand on voyait les photos des copains, de la famille cet été, on avait l'impression que tout le monde était en Grèce, tout le monde était au Baléares ou je ne sais où. C'est vrai, hein, c'était assez amusant. Il y avait une grosse concentration de Français dans les parages. Est-ce qu'il y a eu des destinations ? Est-ce qu'on est retourné aux Caraïbes aussi, par exemple ?
Alors, on est retourné aux Caraïbes, mais c'était un peu plus lent et un peu plus compliqué pour les destinations non courriers. Mais l'offre Caraïbes est très intéressante, puisque il y a quand même une grosse compétition aérienne, donc les gens n'ont pas hésité à saisir une offre qui était moins qui a subi moins d'inflation que les autres destinations. Mais sur le long courrier, les grands gagnants, c'est toujours la République dominicaine, qui a franchi une Covid quasiment sans fermeture, la réouverture des États-Unis ressemble énormément à la réouverture de l'île Maurice, c'est-à-dire qu'aussitôt qu'on a pu aller aux États-Unis, comme à l'île Maurice, immédiatement, les prises de commandes sont parties très très fort.
Alors là, donc, évidemment, vous pouvez vous réjouir des chiffres de cet été. On est dans un contexte assez particulier en ce moment, avec une très forte inflation, un conflit en Ukraine, et également qui vient sur le tapis, la fameuse sobriété énergétique, les avions qui n'ont plus vraiment la cote. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète à terme ?
Non, et c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir, évidemment, inquiétant. Non, si on écoute nos clients aujourd'hui ont envie de voyager. Alors après, ils voyageront peut-être un peu plus longtemps, ils raménageront, mais à l'heure actuelle, nous avons des clients qui veulent à tout prix fréquenter les destinations qu'ils fréquentaient. Peut-être que ça viendra dans quelques années, mais globalement, on est sur les mêmes destinations long courrier de cet hiver. La République dominicaine est à 6-7 heures de vol, comme l'île Maurice, encore plus loin. Tout ça, c'est des destinations qui dominent l'hiver. Bon, l'Europe du Sud est quand même toujours présente, beaucoup plus présente maintenant qu'elle l'était auparavant. Donc, les gens disent, bon, je voyage peut-être sur 1-2 heures de vol. Donc, c'est pour ça qu'on vend beaucoup de Baléares et Canaries. Mais on vend des Antilles aussi pour cet hiver. Donc, c'est un espèce de patchwork entre des décisions de faire moins de temps d'avion et ceux qui restent sur les mêmes principes.
Alors, sur la Toussaint, là, on est à très court terme, hein, puisque les vacances scolaires sont dans le 22 octobre, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, 22 octobre, oui.
Est-ce qu'on peut partir, où est-ce qu'on va, si on a un petit peu de sous ?
Écoutez, nous, on performe bien sur la France, donc visiblement, avec les températures, il y a eu beaucoup de ventes, que la France domine pratiquement les premières destinations. On est sur 20% de nos réservations. On a un peu de visibilité jusqu'à mi-décembre.
Hein. D'accord.
Donc, ça inclut la Toussaint. Et puis, ce que je vous disais, voilà, la République dominicaine, mais le Maroc est aussi une destination sur laquelle les clients aiment bien voyager l'hiver. Et puis, on vend de la Finlande aussi, de plus en plus.
Ah oui, dans le grand froid, là. On va voir le Père Noël.
Particulier.
Et ben voilà pour les bons plans. En tout cas, merci beaucoup, René-Marc Chicly, président du syndicat des entreprises du Tour Operating. Bonne journée à vous.
Europe Matin Weekend.
Léna Aigmonier.
Et on vous souhaite bon courage si vous allez travailler en ce samedi matin. On fait le point en attendant sur toute l'actualité avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. La France insoumise dans la tourmente. L'affaire Adrien Quatennens divise le parti au bord de la crise politique.
L'hydrogène vert, un espoir pour produire du carburant sans émission de CO2. Un premier site de production offshore vient d'ailleurs d'être inauguré à Saint-Nazaire.
Et puis en cyclisme, Julian Alaphilippe va défendre son titre mondial en Australie, mais le Français est loin d'être dans une forme optimale.
Au programme de la prochaine demi-heure, drôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Bencheman emmène Louis Chédid au cimetière du Montparnasse et puis direction l'Auvergne. Après un petit tour en forêt, nous mangerons évidemment de l'aligot. Mais avant cela, la tendance météo, Valérie Darmon.
Des intempéries en PACA et en Corse, des averses orageuses au nord, donc prudence, et des maximales entre 16 à Embrun et 24 à Perpignan.
Et vous nous donnez tous les détails juste après le journal. Clément, la France insoumise s'embourbe donc dans l'affaire Quatennens.
Ouais, plus d'une semaine après que le député du Nord a reconnu avoir giflé sa femme, la France insoumise reste divisée par les prises de position. Celle d'abord de Jean-Luc Mélenchon qui a salué sur Twitter le courage, l'honnêteté ou encore la dignité d'Adrien Quatennens de se mettre en retrait. D'autres insoumis restent très ambigus sur la question. Alexis de La Fontaine.
Oui, entre le silence par solidarité ou le malaise général lorsqu'il faut condamner les propos de leur chef. Depuis le début de la semaine, les insoumis accumulent les maladresses au point de pousser à bout Jean-Luc Mélenchon. Jeudi dernier, exaspéré par une énième question d'un journaliste, le leader insoumis lui a tapoté la joue avant de clamer « tu vas regretter ta question ». Mais la dernière polémique vient de Manuel Bompard. Sur CNews, le député de Marseille a voulu relativiser la gravité d'une gifle.
J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent.
Des propos immédiatement condamnés par l'opposition. Isabelle Rome, la ministre de l'égalité homme-femme, affirme que ces propos abîment le combat contre les violences faites aux femmes. Enfin, Manuel Bompard a fait marche arrière sur Twitter. Une gifle est un fait grave et inacceptable, a-t-il précisé.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Le gouvernement veut prolonger d'un an l'internat des étudiants en médecine générale pour les envoyer dans les déserts médicaux. C'est une information du journal du dimanche. La mesure sera proposée lundi en Conseil des ministres.
Alors Valérie nous le disait il y a un instant, attention si vous êtes dans le sud-est, un épisode méditerranéen a balayé la région.
D'importantes précipitations sont encore attendues dans les prochaines heures. L'automne commence et amène avec lui les épisodes cévenols. La Côte d'Azur a fait face ces dernières années à des inondations meurtrières. Les élus locaux veulent s'en prémunir en construisant des infrastructures. À Mandelieu, la Napoule, un bassin de rétention vient d'être construit, mais le maire se sent abandonné par l'État. Sébastien Leroy dénonce les lourdeurs administratives. Il témoigne au micro Europe 1 de Frédéric Michel.
Aujourd'hui, la réalité française, c'est qu'entre la législation, la réglementation et la bureaucratie, la multitude de bureaux qui doivent vous donner un avis conforme sur des problématiques et des attentes totalement différentes et parfois contradictoires en elles, on n'avance pas. On bloque, on empêche tous les projets de se faire pendant des années, voire des décennies. Et même si des vies humaines sont en jeu et que des biens sont en jeu, ces législations aujourd'hui ne sont pas revues. Et ce bassin qu'on aurait pu faire en un an et demi, on le fait en deux ans et demi parce qu'on m'a imposé de faire une enquête publique d'un an qui n'a rien apporté, même personne n'est venu répondre. Ça n'avait aucun sens. Il y en a un autre beaucoup plus important sur lequel on travaille depuis maintenant près de 13 ans et qui en est toujours aux études théoriques, c'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à pouvoir acheter le foncier. Il faut simplifier, évoluer, il faut s'adapter. On ne pourra jamais être plus fort que la nature, mais la résilience de nos territoires, ça passe par une multitude d'actions dont les grands ouvrages sont une composante essentielle et aujourd'hui ces grands ouvrages ne sortent pas de terre uniquement parce qu'on suit tous ces labyrinthes. Inutile, je le dis, je l'affirme et rien ne change.
Des propos recueillis par Frédéric Michel.
Et face aux conséquences du réchauffement climatique, le gouvernement veut accélérer le développement des énergies renouvelables.
Alors qu'Emmanuel Macron inaugurait jeudi le premier parc éolien en mer à Saint-Nazaire, au même moment, le premier site de production d'hydrogène renouvelable offshore a également été présenté. C'est une première mondiale. Cet hydrogène vert pourrait peut-être permettre de produire un carburant propre sans émission de CO2, Margot Faudéré.
À quai, une barge jaune en forme d'hexagone de 20 mètres de long sur 14 de large, à 6 mètres au-dessus du sol et au sommet, un électrolyseur pour transformer l'eau de mer en hydrogène grâce à l'électricité éolienne, explique le directeur général délégué de LIFE, Antoine Hamon.
C'est le gros conteneur jaune qui est en plein milieu et vous avez un conteneur qui va traiter l'électricité. Donc l'électricité qui vient de l'éolienne, il faut la traiter pour alimenter l'électrolyseur. Et de l'autre côté, vous avez le traitement de l'eau. Donc on va aspirer l'eau, la déminéraliser pour la mettre dans notre électrolyseur.
De l'eau et du vent, selon lui, cela permettra par exemple de produire du carburant propre pour les voitures.
Dans la molécule d'eau, on a de l'oxygène et de l'hydrogène. Et donc en mettant simplement de l'électricité dans de l'eau, l'hydrogène porte l'énergie qui va ensuite faire avancer votre véhicule et recracher que de l'eau derrière votre véhicule.
Pour l'instant, la barge de 300 tonnes reste dans le port pour les derniers tests, mais dès le printemps, direction l'océan où elle sera connectée à une éolienne flottante. L'objectif, équiper des grands parcs éoliens offshore, comme celui inauguré le même jour à Saint-Nazaire.
C'est un pilote qui va nous permettre de déployer ça massivement pour pouvoir décarboner l'industrie, la mobilité et la chimie.
En attendant, cette barge peut produire 400 kg d'hydrogène chaque jour, de quoi alimenter 100 voitures à hydrogène.
Le reportage reportage de Margot Faudéré à Saint-Nazaire pour Europe 1.
Et à 6h36, on termine avec des nouvelles de Julian Alaphilippe qui est loin d'être dans une grande forme pour les mondiaux de cyclisme en Australie.
Oui, l'Auvergnat sera la nuit prochaine sur la ligne de départ en Australie avec cet objectif décrocher un troisième titre consécutif. Mais le Français n'arrive pas dans les meilleures conditions, Martin Lange.
Oui, la saison 2022 de Julian Alaphilippe ne restera pas dans les annales, c'est le moins qu'on puisse dire. Seulement deux petites victoires, une infection au Covid et surtout une ribambelle de chute. La dernière lors de la Vuelta il y a 3 semaines. L'équipe de France a eu peur, mais le double champion du monde défendra bien son maillot arc-en-ciel cette nuit, malgré cette préparation perturbée.
Je suis certainement pas à 100%, mais j'ai vraiment envie de me faire mal, vraiment envie de donner le meilleur de moi-même sur cette course, et que ce soit pour l'équipe de France, mais aussi pour essayer de gagner avec les gars. Ça sera l'objectif, et bien sûr que je serai content de contribuer à tout ça. Quoi.
Un Julian Alaphilippe plus collectif que jamais, car l'équipe de France débarque en Australie armée. Christophe Laporte, vainqueur d'étape sur le Tour, Romain Bardet, mais aussi Benoît Cosnefroy ou encore Valentin Madouas. Autant de coureurs qui pourraient jouer leur carte à Wollongong. D'ailleurs, le sélectionneur Thomas Vaucler n'a pas voulu en dire plus sur sa stratégie, mais il lui faudra de l'imagination face à un plateau relevé avec notamment Wout van Aert ou encore le double vainqueur du Tour, Tadej Pogacar.
Martin Lange du service des sports d'Europe 1. Et puis ça y est, le géant du tennis Roger Federer tire un trait sur près de 25 années d'une carrière exceptionnelle. Il s'est offert comme balle d'adieu un double avec son grand rival Rafael Nadal. C'était hier lors de la Laver Cup à Londres.
Et il a perdu. Hein.
Et il a perdu.
Il part sur une défaite. C'est quand même ballot. Merci beaucoup Clément, à tout à l'heure.
Vous rêvez d'une piscine sur mesure? Choisissez le spécialiste près de chez vous. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Mondial Piscine vous présente la météo.
Valérie Darmon, il fait un petit peu moins froid ce matin que pendant la semaine.
Effectivement, parce qu'on a beaucoup plus de nuages, donc ça fonctionne comme un couvercle. Donc ce matin, on a 6 à Charleville-Mézières, 8 à Nancy, 9 à Gap, 10 à Montluçon, 12 degrés à Saint-Brieuc, 13 degrés à Paris, 14 à Biarritz et Lyon et 16 degrés à Nice et Marseille. Et cet après-midi, en revanche, sous les nuages et les pluies qui vont toucher quasi toute la France et particulièrement, évidemment, le sud de la France, le sud-est et la Corse en soirée, les maximales vont évoluer entre 17 à Bourges et 24 à Perpignan et Montpellier, 18 annoncés à Paris, 19 à Reims et Biarritz, 20 degrés à Angers, 21 à Nice. Et le temps perturbé de ce week-end va maintenir des températures en dessous des normales quasi toute la semaine prochaine d'ailleurs, avec une moyenne des valeurs où il est même prévu qu'elle chute jusqu'à 4 degrés en dessous des normales en milieu de semaine prochaine, ces après-midi qui vont paraître encore plus froides, avec 15 degrés par exemple prévus mardi contre 21 en région parisienne.
Merci.
Ce mercredi.
Merci Valérie. À tout à l'heure, 7h. Et nous, dans un instant, on retrouve Naïma Bencheman. Elle sera accompagnée de Louis Chédid et elle l'a accompagnée au cimetière du Montparnasse. À tout de suite.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Et à 6h40, vous le savez, tous les samedis matins, on retrouve Naïma Bencheman, une personnalité, un lieu des confidences. Elle nous emmène aujourd'hui au cimetière du Montparnasse avec Louis Chédid.
Maintenant que la page est tournée, j'ai pas honte de l'avouer, je me sentais si seul sans vous.
Bonjour Louis Chédid.
Bonjour.
Alors drôle d'endroit pour une rencontre, et c'est le cas de le dire, vous m'avez donné rendez-vous au cimetière du Montparnasse.
Exactement.
C'est un endroit cher à votre cœur, Louis Chédid.
D'abord, j'habite à côté et c'est vrai que j'habite depuis très longtemps dans le 14e à Montparnasse. Et cimetière, d'abord, j'ai des proches qui sont là. Et voilà, mes parents. Et puis aussi, il y a quand même ce que j'appelle du très beau linge ici.
C'est quoi du très beau linge ?
Il y a Maupassant, ouais. Il y a Romain Gary, il y a Jean Carmé, que j'adore.
Ça vous inspire un endroit comme celui-là ?
Ah oui,
c'est
inspirant. Vous savez, d'abord, il y a une chose qui est très très puissante dans ces endroits-là, c'est que vous êtes dans la ville, et donc avec le bruit, les sirènes de police, tout ça, la circulation.
On n'entend rien.
Et là, vous rentrez là et tac.
Un havre de paix. Hein.
Voilà, exactement.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même.
Louis Chédid, vous venez de sortir un album où revisitez vos plus grandes chansons. L'album s'intitule En noir et blanche. En noir et blanche, comme les notes d'un piano. D'habitude, c'est plutôt une guitare qui vous accompagne. Mais vous avez rencontré Yvan Cassar, qui est un immense pianiste. Il a travaillé avec Aznavour, Johnny Hallyday notamment. Comment est-ce que vous avez travaillé ensemble pour qu'on ait l'impression, à ce point, d'écouter vos chansons comme si c'était la première fois, comme si c'était un album d'inédit finalement?
Eh bien, écoutez, c'est plus beau compliment que vous pouvez nous faire, hein, parce que c'est vrai que c'est ce que disent la plupart des gens qui écoutent le disque, ça me plaît beaucoup. Oui, parce que je pense que les chansons tout d'un coup prennent une dimension et une luminosité un petit peu différente, parce que elles sont très dépouillées et donc le texte est assez en avant, donc on redécouvre le texte.
Ces mots sont pour toi. Pour toi toute seule.
C'est vraiment piano et voix et rien de plus.
Et
on revient à l'essentiel. Donc c'est des chansons, moi j'appelle ça du naturisme musical. C'est vraiment
très joli comme formule.
Ainsi va la vie. Ceux qui restent ont toujours raison. Ainsi va la mort. Les absents ont toujours tort.
En noir et blanche, au-delà d'un projet, c'est une aventure en chanson et en musique. Moi, ce qui m'a beaucoup ému, bien au-delà de la redécouverte de vos textes, c'est la richesse des timbres de piano qu'on retrouve sur l'album. On entend des pianos d'époque, on entend des pianos plus modernes. Chaque chanson, elle a son atmosphère à elle, comme enveloppée par une couleur musicale en noir et blanche qui l'épouse à la perfection.
Ça, c'est vraiment le travail d'Yvan Cassar, il pousse très très loin et l'idée évidemment,
la virtuosité, hein.
Ouais, ouais. Et l'idée évidemment et l'obsession d'Yvan, c'était de pas faire un album avec le même piano et chaque titre qui s'enchaîne, si vous voulez. Je trouve que la force aussi de ce disque, c'est que chaque piano a sa sonorité, ouais. Chaque piano a sa personnalité. Il y avait 4 pianos.
Ce qui contribue piano probablement
droit, piano à, queue.
À faire que chaque texte, on a l'impression finalement que c'est une nouvelle chanson.
Vraiment, il y a une diversité dans les sons et dans les choses comme ça. J'ai découvert ça, hein, parce que je ne connaissais pas à ce point-là le piano. Et je pense que c'est un ajout énorme dans le disque.
Loin des yeux, loin du corps, peut-être. Mais le cœur, lui, n'en fait qu'un, sa tête.
Il y a une tournée qui est en préparation. Ouais. Est-ce qu'on va retrouver justement les 4 pianos
ouais,
dont vous me parlez?
Comment vous, sur scène.
Comment vous allez faire cette tournée avec
Il va y avoir 4 pianos qui vont nous suivre sur toutes les dates. Et puis on va effectivement travailler les sons et de façon à proposer aux gens un spectacle qui soit différent selon ce qu'on fait. Ouais, voilà.
Wow.
On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. Par peur de les gêner, quand on les aime.
Dans ce nouvel album, Louis Chédid, en noir et blanche, vous repartez à la découverte de vos plus grands titres.
Oui.
50 ans de carrière.
Ouais.
50 ans de carrière.
Bientôt, dans quelques mois.
Ouais, c'est une très très belle, une très très longue carrière. Ouais. C'est marrant, 50.
Ouais.
C'est l'âge de votre fils.
Oui.
Cette année, qui avait eu cette très belle phrase, moi qui m'avait dit, j'ai pas 50 ans, j'ai 2 fois 25 ans.
Exactement, et oui, vous, c'est vrai.
Vous, quel regard portez-vous sur ces 50 ans de carrière, Louis Chédid? Vous vous rendez compte?
Non, c'est vrai que je me dis que c'est absolument surréaliste. C'est une chance extraordinaire de faire ça. Hein. C'est un truc, c'est un cadeau de la vie. Hein. C'est pas, parce que quand on est petit, quand on est ado, etc., on se dit, j'aimerais bien... jouer, faire de la guitare et faire un disque, c'est un fantasme quoi, de faire un disque. Et,
et pour vous, non seulement il est devenu réalité, et puis ça s'est prolongé avec les années.
Et voilà, voilà. Mais alors, on ne pense pas du tout à la longévité. Je pense que quand on me demande de quoi vous êtes le plus fier, je pense que c'est de ça. C'est de la longévité, en fait.
What guards of the swing? What guards of the swing?
Merci Louis Chédid de ce drôle d'endroit pour une rencontre très inspirante au cimetière du Montparnasse. De vos balbutiements à votre confirmation dans le paysage musical français, vous avez toujours insufflé un vent de fraîcheur. On serait si seul sans vous, vous qui nous rappelez qu'on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. God save swing, et bien God save Louis Chédid. Merci infiniment.
Ah, c'est moi qui vous remercie.
En silence, en noir ou en blanche, faut que la musique danse, claquer des doigts. frapper dans vos mains, va taper du pied. Qu'elle soit hard, qu'elle soit cool, faut que la musique tourne.
Drôle d'endroit pour une rencontre, Naïma Benchemann, le samedi à 7h-20 et à retrouver évidemment comme toutes nos chroniques sur Europe1.fr.
Europe Matin Weekend, Léna Aigmonier.
6h47, on retrouve Clément Barguin pour le fil info de l'actualité, Clément.
Elisabeth Borne choisit l'Allemagne pour son premier déplacement à l'étranger. La première ministre se rendra à Berlin jeudi prochain où elle rencontrera le chancelier Olaf Scholz. Il sera notamment question de coopération énergétique. Des référendums d'annexion par la Russie ont débuté hier dans les régions d'Ukraine contrôlées en partie par Moscou. Joe Biden promet des sanctions rapides et sévères en cas d'annexion. Le président américain qualifie ces référendums de simulacres, un prétexte fallacieux pour, je cite, essayer d'annexer des parties de l'Ukraine par la force. En Iran, au moins 50 personnes sont mortes lors de manifestations réprimées par le régime. C'est ce que rapporte une ONG locale. Dans le pays, les protestations se multiplient ces derniers jours après la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs pour le port de vêtements inappropriés. Et puis les Marseillais devront disputer leur prochain match européen à huis clos. L'UEFA sanctionne l'Olympique de Marseille après les incidents face à Francfort. Il n'y aura donc pas de supporters au Vélodrome le 4 novembre prochain pour la rencontre face au Sporting Lisbonne.
Merci beaucoup Clément. Dans un instant, Vanessa Zah nous fait faire du canicart. Tiens, on va découvrir ça dans la forêt de Troncé, c'est en Auvergne. Et après tous ces efforts, on aura bien mérité un petit aligo avec Olivier Pouls.
Europe Matin Weekend, Lénaïc Monnier.
La balade du samedi, Vanessa Zah, Olivier Pouls, et avec une petite ambiance ce matin qui sent bon, la campagne, ouais, la forêt, les petits oiseaux. Un peu printanier, vos petits oiseaux quand même, Vanessa.
Ouais, il y a des oiseaux en toute saison.
Nous sommes d'accord,
les pastoraux sont là en ce moment.
On va dans l'allée. Pour aller humer le sous-bois d'une forêt qui fait, figurez-vous, la superficie de Paris. Ah. 10 594 hectares. C'est la plus grande chênaie d'Europe. Ce qui lui vaut son nom, la forêt de Troncé. Pourquoi ? Parce qu'en patois bourbonnais, tronce signifie gros tronc de chêne. Je confirme, 49 des arbres de la forêt sont classés remarquables. Un exemple, hein, parmi d'autres, la sentinelle, c'est un chêne de plus de 400 ans et qui fait un tour de taille de 6 mètres. Voilà, on a un petit peu de marge quand même, encore Olivier.
Ouais,
c'est
manger,
un peu le chêne de Panoramix, en gros, dans Astérix, puisque c'est un chêne de type druidique. Et j'indique qu'il y a un circuit spécifique sur les traces des arbres patriarches, justement.
Alors, on comprend mieux pourquoi elle est labellisée forêt d'exception. Hein.
Depuis 2018, parce que c'est un patrimoine naturel par excellence. Pourquoi ? Pour ses histoires, ses paysages, sa biodiversité et donc ses bois de grande qualité. Donc le roi, vous l'avez compris, c'est le chêne, hein, Rouvre ou Cécile, mais il y a aussi des hêtres, des charmes et même quelques pins sylvestres. Donc c'est aussi un temple de la biodiversité. Je ne vais pas vous faire toute la liste des cerfs, des sangliers, etc. Mais il y a surtout 21 espèces de chauves-souris et 600 insectes coléoptères, évidemment, parce qu'il y a du bois.
Voilà. Et un temple d'histoire, à ce que vous disiez, lesquels ?
Alors, celle de la grande histoire, évidemment, celle du XVIIe siècle surtout, parce qu'après la Fronde, donc la marine était dans un sale état. Il faut savoir que pour construire un seul navire royal, il fallait quand même 3000 arbres. Et donc, Colbert, le contrôleur des finances de Louis XIV, réorganise les ressources en bois du royaume et elles vont être dédiées au chantier naval. Alors pour ça, il édite une grande ordonnance des eaux et forêts pour protéger donc sa ressource. Et alors au final, Troncé va pas être tant utilisé que ça. Pourquoi ? Parce que les arbres poussent lentement. D'accord. Les bois, en fait, sont de trop bonne qualité. Il n'y a pas assez de défauts, en fait.
On les garde pour autre chose.
Voilà. Et donc, ils sont exclus pour le chantier naval. Donc, finalement, bien protégés, cyniquement, par cet édit.
Alors, si on veut partir en balade,
est-ce que vous savez à quoi ils servent essentiellement les bois de chêne de la forêt de Troncé ?
Tonneaux.
Exactement. À faire des tonneaux pour le vin. Et c'est parmi les meilleurs chênes pour faire des tonneaux de qualité pour les loges du vin.
D'accord. Ah, bah, c'est formidable.
Super.
Deuxième bonne occasion d'aller la visiter, cette forêt. Comment on le fait, justement? Comment on la visite?
D'une manière originale. On va faire en canicart. En fait, ça remplace le traîneau l'hiver quand il n'y a pas de neige. Alors, c'est des sorties de 2 heures. Donc, vous préparez le matériel. Vous avez une histoire sur le chien de traîneau, sur la naissance des attelages en Alaska, qui remontait à la ruée vers l'or. Et puis, une heure de parcours. Donc, dans la forêt.
Alors justement, j'imagine que ces chiens sont des ouskis.
Eh ben non, c'est pas des ouskis, c'est des alaskans.
Vous me piégez à chaque fois.
Ben non, mais en fait, moi non plus, je savais pas ce que c'était avant de parler à leur maître, Sylvain Cordeau, donc d'Itinérance Machine.
L'alaskan, c'est pas une race de chien, c'est un type de chien, puisque c'est un mélange qu'on a imaginé à l'époque de la ruée vers l'or, début des années 1910, on va dire, donc entre du husky de Sibérie, du braque, du pointer et du lévrier. Donc, on a la base du ski de Sibérie pour la rusticité, le braque et le pointer pour la puissance et le lévrier pour la rapidité.
Ah oui, donc vraiment une grosse variété, c'est varié. Hein,
on est d'accord, vous êtes plutôt pointer, Olivier, ou pas?
Oui, ouais, pointer ouais, pour pointer. Son nez, la qualité son de son nez.
Et puis les braques, qu'est-ce que c'est beau, les braques,
c'est majestueux, c'est élégant en plus. Voilà.
Du coup, on est moins bête.
On est moins bête, hein, on est moins bête ce soir. Voilà, on aura appris des choses. Et alors, pour dormir, ah bah oui, un petit hôtel plein de charme, le Troncay, en plein cœur de la forêt Troncay, et au bord de l'étang de Troncay.
Et quand on va dormir, on va... manger, ah, au préalable, avec vous, Olivier. On va rester en Auvergne, évidemment, pour parler d'un produit original qui est la tome fraîche.
L'incroyable tome fraîche, à ne pas confondre avec la tome d'Auvergne, qui est un fromage à pâte pressée, non cuite et qui a été affiné. En réalité, la tome qui s'écrit avec un M, hein, la tome fraîche, ne se mange pas en tant que telle. C'est la première étape de fabrication d'un fromage. C'est un fromage qui n'est pas fini, du Laguiole, du Salers ou du Cantal. Et donc, si vous la mangez comme ça, vous allez la trouver très fade, sans intérêt. C'est vraiment un fromage qui est destiné à des préparations. Et il y a deux célèbres préparations dérivées de ce fromage, évidemment. La Ligot ou la truffade. Truffade qui, contrairement à ce que son nom indique, ne contient pas de truffe. Hein. Non, c'est comme une espèce de gratin de fromage avec la fameuse tome.
Alors, d'où vient cette Aligot, justement, dont vous nous parlez?
Eh bien, elle nous vient des moines et du XIIe siècle. Aligot vient du nom aliquid, en latin, du terme aliquid, lorsque les pèlerins qui faisaient le chemin de Saint-Jacques de Compostelle s'arrêtaient et demandaient aliquid à manger. Et on leur donnait de l'aligot. À l'époque, l'aligot était composé de pain et de fromage. Et ensuite, c'est au XVIIIe siècle que, suite à une crise du blé, le pain a été remplacé par la fameuse pomme de terre.
Alors, où est-ce qu'on en déguste cette aligot?
On peut en
chez
déguster.
Chez vous, peut-être.
Alors, chez moi, éventuellement. À la maison de l'Aubrac à Paris, ou le pont du Cantal, il y a le restaurant de l'Aubrac à Laguiole aussi, évidemment, si vous voulez être sur place. Et puis, vous pouvez la faire vous-même. Ce fameux aligot, vous pouvez le faire. Purée de pommes de terre.
Oui.
Donc, 500 grammes de pommes de terre, 50 grammes de beurre, 20 grammes de crème. C'est déjà un peu riche. Et ensuite,
si peu.
300 grammes de tomes fraîches que vous allez mettre par petits dés. Et petit à petit, en mélangeant la purée de pommes de terre avec la tome, en faisant des 8, vous savez, comme ça. Avec votre...
comme quand on fait de la godille.
Exactement, avec votre cuillère en bois, vous allez avoir la tome qui va fondre et qui va commencer à filer. Et puis alors là, c'est un jeu d'enfant, c'est même assez amusant.
Oui, c'est plutôt ludique, c'est sympa.
De voir ces grands fils.
Très joueuse, les
voilà, on prend deux cuillères, tac, 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 on les roule l'une en face de l'autre. Et on fait comme ça des espèces de rubans d'aligot qu'on coupe avec des ciseaux, parce que sinon, c'est presque interminable.
Donc on coupe avec les ciseaux,
avec des ciseaux.
Bon,
voilà.
On n'a plus qu'à y aller. Merci à tous les deux. Les infos arrivent à tout de suite. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Il est 7h.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Et à 7h, le journal vous est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Quand l'affaire Pogba dépasse le cadre familial, le staff de l'équipe de France savait que le milieu de terrain traversait une mauvaise passe. Les précisions dans un instant.
4 fois plus de risques de mourir en accouchant. La santé des femmes enceintes particulièrement mise en danger en Outre-mer. C'est l'un des constats d'un rapport inédit publié par Santé publique France.
Et puis c'est à Londres qu'il a remporté 8 de ses 20 grands chelems. C'est aussi à Londres qu'il vient de faire ses adieux. Roger Federer a fait pleurer le monde du tennis au terme de son ultime match aux côtés de Raphaël Nadal.
Après le journal, nous parlerons avec Mathieu Alterman de l'influence de Jean-Luc Godard sur la musique au cinéma. Et puis à quand la retraite? C'est ce qu'on verra avec mon invité, l'économiste Antoine Bozio. D'ici là, une tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, de fortes pluies en Normandie ce matin. Gros cumul de pluie aussi dans le sud-est et particulièrement en Corse ce soir.
Et vous nous donnez les détails à la fin du journal. Et ça ne s'arrête donc pas, un nouvel épisode, Clotilde, dans l'affaire Pogba.
D'après les éléments du procès-verbal, la sécurité de l'équipe de France était au courant, Wilfried De Villiers, des menaces qui pesaient sur Paul Pogba.
Oui, c'est Mohamed Sanadji, le policier en charge de la sécurité des Bleus, qui le dit. Il a été entendu le 9 août dernier par les enquêteurs. Dans le procès-verbal de son audition, on constate qu'il est revenu sur les confidences de Paul Pogba concernant les tentatives d'extorsion à son encontre. Depuis quelques mois, je vois qu'il est préoccupé, détaille le policier. Vers le mois de mars, il m'a dit qu'il vivait une situation difficile, qu'il n'était pas bien et que des gens lui voulaient du mal. Il lui réclamait des grosses sommes. Fin de citation. Le mois de mars, c'est à cette période que Paul Pogba aurait été séquestré et que l'on l'on aurait tenté de l'extorquer. Selon le chargé de sécurité des Bleus, le milieu de terrain français lui aurait également dit que les personnes le menaçant utilisaient son frère Mathias Pogba pour faire la liaison. Le Parisien révèle d'ailleurs ce matin un long message entre les deux frères envoyé depuis le portable de Mathias. Ce dernier dit être lui aussi la cible de menaces et demande à Paul Pogba de verser l'argent au groupe qui s'en prendrait à son entourage.
Wilfried De Villers, Mathias Pogba qui, je vous le rappelle, est toujours en détention.
Alors les nuages s'accumulent au-dessus de la tête de Pogba, mais aussi dans le sud-est. D'importantes précipitations localement orageuses sont attendues aujourd'hui.
Et à chaque fois, la même appréhension sur la Côte d'Azur, déjà victime d'inondations meurtrières en 2015, et puis il y a 2 ans dans les vallées de l'arrière-pays niçois. Alors désormais, il existe des campagnes de prévention et plusieurs communes s'équipent pour lutter contre ces crues dévastatrices chaque année. Par exemple, à Mandelieu, la Napoule, un bassin de rétention vient d'être construit. Il doit aider à contenir les eaux. Reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
Les tractopelles sont encore en action, mais ce bassin d'une capacité de 14 000 mètres cubes, grand comme un terrain de football, est opérationnel. Il a été creusé en contrebas d'un ruisseau qui, à chaque pluie diluvienne, se transforme en torrent. Sébastien Leroy, le maire de Mandelieu-la-Napoule.
Alors l'objectif, c'est de ralentir l'inondation, de stocker l'eau pour lui permettre de s'écouler naturellement. Ce vallon, qui aujourd'hui est à sec et très calme, a été responsable de l'inondation de la quasi-totalité du centre-ville il y a 2 ans. Et avec cet ouvrage, on pourra affronter une crue centenale de manière sereine.
Depuis 1 an, la police municipale de Mandelieu est aussi équipée de 2 véhicules amphibies, son directeur Pierre Boutillon.
Ils peuvent à la fois rouler sur une route normale, sur un terrain accidenté, mais également naviguer comme un petit bateau. Ça nous permettrait d'accéder, en cas d'inondation importante, à n'importe quel secteur de la commune pour pouvoir transporter des gens, amener du matériel, des vivres.
Parallèlement, comme dans tout le département, la commune multiplie les campagnes de prévention informant les populations sur les bons gestes à adopter en cas d'inondation. Par exemple, ne pas chercher son véhicule en sous-sol. En 2015, 8 personnes étaient décédées à Mandelieu dans des parkings.
Le reportage de Frédéric Michel à l'étranger. Le Canada se prépare à l'arrivée de l'ouragan Fiona. Les services météo s'attendent à un événement historique. Fiona qui a déjà tué 4 personnes à Porto Rico, 1 en Guadeloupe et 2 en République dominicaine.
Il est 7h05 sur Europe 1 et pour la première fois, un rapport décrit l'état de santé périnatale en France.
Un document d'environ 160 pages publié hier par Santé publique France et qui compile une série de données allant de 2010 à 2019 sur l'état de santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né pendant la période qui va de la grossesse au post-partum. Et de ce rapport, Yasmina Katou, on retient notamment une hausse de la mortalité des nouveau-nés et une dégradation de l'état de santé des femmes enceintes.
Oui, et c'est en Outre-mer que les indicateurs sont les plus inquiétants. En donnant la vie, les femmes y ont 4 fois plus de risques de mourir qu'en métropole. La mortalité néonatale y est aussi plus élevée. 4 décès pour 1 000 naissances lors du premier mois de vie. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Le suivi de la grossesse est problématique dans ces territoires, explique Nolwenn Regnault. Elle est responsable de l'unité périnatale de Santé publique France.
Sur ces territoires, les femmes sont plus jeunes, mais effectivement, sont dans des situations de précarité plus fréquemment. Ces femmes sont souvent prises en charge tardivement et donc ils ne bénéficient pas de la prise en charge que l'on retrouve dans d'autres territoires.
Ailleurs en France, le rapport révèle que plus de femmes enceintes ont développé du diabète gestationnel ou de l'hypertension, notamment parce que les femmes sont aujourd'hui plus âgées. Autre inquiétude, les mamans sont plus souvent en surpoids qu'avant, ce qui augmente la survenue de complications au cours de la grossesse. Ce constat établi va servir de base aux chercheurs pour tenter d'inverser la tendance et proposer des solutions aux pouvoirs publics.
Les précisions de Yasmina Katou.
Et lui n'en est plus à la naissance de sa carrière, mais plutôt à son crépuscule. C'est Roger Federer, il a fait ses adieux cette nuit.
Et oui, après un dernier match en double avec son partenaire et rival de toujours, Rafael Nadal, les deux champions qui se sont tout de même inclinés à la Laver Cup face à la paire américaine Sock Tiafoe. L'émotion a finalement pris le dessus pour l'Espagnol.
Je dois avouer que mes premiers services étaient super difficiles. Je n'étais pas capable d'effectuer ma gestuelle normalement. J'ai même commencé avec une double faute. Ça a été une journée difficile. Et à la fin, l'émotion a pris le dessus. Pour moi, c'est un grand honneur d'avoir fait partie de ce dernier match. C'est un moment incroyable de l'histoire de notre sport. Et en même temps, le départ de Roger entraîne avec lui une partie de ma vie également. Parce que vous savez, à chaque fois qu'il a été à côté ou en face de moi, ce fut un moment important de ma vie. Donc c'était très touchant de voir sa famille, tous ces gens autour de lui. C'est difficile à décrire, mais c'était un moment incroyable.
Et avec cette défaite de Federer et Nadal, l'équipe européenne et l'équipe du reste du monde sont pour l'instant à égalité de partout à la Laver Cup, à suivre notamment aujourd'hui Matteo Berrettini face à Félix Auger-Aliassime et puis Novak Djokovic contre Frances Tiafoe.
Voilà, et c'est Cédric Chasseur qui a recueilli les propos de Raphaël Nadal, lui qui a eu la chance d'assister au match cette nuit. Merci Clotilde. Valérie Darmon, le ciel de nos régions ressemble à quoi ce matin ?
Eh bien, il est homogène, humide en fait, même très pluvieux. Alors surtout, évidemment, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Prudence, parce qu'on a un important épisode pluvieux et orageux qui vous concerne jusqu'à la mi-journée avant le retour des éclaircies en milieu d'après-midi et la fraîcheur qui est particulièrement marquée aussi sur ces régions, avec 18 à 20 degrés maximum. Des Hauts-de-France à la Normandie, journée sous de fortes averses aussi, parfois orageuses, froides, sous les trombes d'eau. De la Nouvelle-Aquitaine aux Pyrénées, après une nuit très arrosée, le ciel redevient variable ce matin, avec un risque d'averse qui persiste tout de même, plus marqué cet après-midi qu'en matinée. Et puis des Vosges au Jura jusqu'en Rhône-Alpes, les pluies sont soutenues aussi ce matin, avec de la neige au-dessus de 2200 mètres sur les Savoies. Cet après-midi, les averses qui prennent le relais de la pluie, des maximales entre 17 à Lille et 24 à Nîmes et Perpignan. Et vous l'avez compris, il faut ressortir les parapluies.
Merci beaucoup Valérie Darmon. On va bien suivre votre conseil si vous allez faire un petit footing ce matin. Équipez-vous à suivre l'interview actu. Pourquoi vouloir précipiter la réforme des retraites ? Y a-t-il d'autres options que le report de l'âge légal ? Antoine Bozio, économiste spécialiste des retraites, est avec moi. Je vais lui poser toutes ces questions. À tout de suite.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
La réforme des retraites, au cœur de l'actualité évidemment cette semaine, à l'heure où l'on se parle, le passage en force semble un petit peu s'éloigner. En tout cas, c'est en ce sens que la Première ministre Elisabeth Borne essaie de convaincre Emmanuel Macron. On va s'attacher à cette réforme sur le fond et sur la forme. Bonjour Antoine Bozio.
Bonjour.
Alors vous êtes économiste, maître de conf à l'école des hautes études en sciences sociales, prof associé à l'école d'économie de Paris, directeur de l'Institut des politiques publiques et vous avez écrit cet ouvrage, Parlons retraite. Traite en 30 questions. Alors, j'ai pas le temps de vous poser les 30 questions, hélas, mais je voudrais qu'on revienne sur ce que disait encore mercredi Emmanuel Macron pour défendre le modèle social français. Il faut repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans. Est-ce que c'est la solution ?
Alors, d'abord, le premier point, c'est de faire le constat sur l'équilibre ou non du système de retraite. Donc, le Conseil d'orientation des retraites vient de publier son dernier rapport qui met en évidence que, quelles que soient les hypothèses que l'on peut prendre sur les projections du système, notre système de retraite va avoir un déficit de l'ordre de 0,5 points de PIB, c'est-à-dire à peu près 10 milliards d'euros. Ce n'est pas gigantesque, le système n'est pas en faillite, mais il y a bien un déficit, il est prévu pour être durable. Mmh. Et donc la question de savoir comment on y répond, elle est vraiment posée.
Alors justement, je vous la pose, comment rétablir cet équilibre ?
Alors, de façon traditionnelle, il y a trois façons de pouvoir équilibrer le système de retraite. On peut baisser les pensions de retraite, mais dans une situation où l'inflation est forte, baisser le pouvoir d'achat des retraités n'est pas du tout quelque chose qui est évident. À l'inverse, on pourrait augmenter les prélèvements sur les actifs, les cotisations, mais là, de la même façon, baisser le pouvoir d'achat pour les actifs n'est pas totalement évident, sachant qu'on n'est pas dans une situation où le pouvoir d'achat est fortement en croissance avec l'inflation, les coûts, les chocs de l'énergie que l'on subit en ce moment. Donc, la troisième solution, c'est la voie qui est préférée par le gouvernement, est de dire qu'on peut repousser l'âge de départ en retraite, c'est-à-dire augmenter l'âge moyen auquel on part en retraite.
Alors,
c'est là le point peut-être qui est important, c'est que augmenter l'âge moyen de départ en retraite, ça ne veut pas forcément dire augmenter uniquement l'âge d'ouverture des droits, parce que s'il s'agit d'un paramètre parmi d'autres pour savoir comment on fait pour pouvoir augmenter l'âge moyen de départ en retraite, si on augmente l'âge d'ouverture des droits, une partie des salariés vont être touchés par cette augmentation, mais d'autres pas. Il y a d'autres paramètres qui jouent, comme par exemple le taux plein, la durée d'assurance requise pour avoir le taux plein, qui peut toucher des personnes entre 62 et 67 ans. Donc, c'est la combinaison de ces paramètres qui peut savoir dans la façon dont on va pouvoir ou pas, si on souhaite augmenter l'âge de départ en retraite comme solution à l'équilibre de notre système.
Avec une mesure qui pourrait paraître injuste socialement. Tout le monde n'est pas égal face à l'âge de la retraite, évidemment.
Tout le monde n'est pas égal face à l'âge de la retraite. En particulier, l'âge d'ouverture des droits a tendance à toucher plus les salariés qui ont commencé plus tôt à travailler, qui en général ont des plus faibles qualifications et des salaires plus faibles que ceux qui ont commencé plus tard à travailler et qui sont plus soumis à la question de la durée d'assurance pour obtenir le taux plein. Donc si on veut concevoir une réforme qui soit plus juste, égalitaire dans la façon dont elle va demander des efforts en termes de repousser son âge de départ, c'est probablement dans la combinaison des paramètres plutôt qu'en choisir un seul peut trouver une solution équilibrée.
Alors, si on doit travailler jusqu'à 65 ans, encore faut-il travailler ? L'emploi des seniors, ça c'est un vrai sujet également, hein ?
C'est un vrai sujet parce que plus on favorise l'emploi des seniors, sans même forcément toucher à repousser le départ en retraite, plus ça permet d'avoir une base large au financement de l'ensemble de la protection sociale, dont le système de retraite. Donc ça fait partie et intégralement des questions de savoir comment on favorise le maintien en emploi et le rôle des entreprises finalement aussi dans cette perspective de donner des perspectives d'emploi aux seniors pour leur fin de carrière.
Alors vous le disiez, hein, il y a un instant, le timing n'est pas forcément le bon entre l'inflation, la sobriété énergétique, les fins de mois difficiles. Ce serait ouvrir un peu un automne social assez important dans les rues s'il y avait un passage en force.
Il y a une question démocratique de savoir comment on s'accorde pour ce choix, de savoir quel est le bon partage qu'on souhaite mettre en place pour faire face à la question du déficit du système de retraite. Ce que j'aimerais souligner, c'est que je ne suis pas certain de l'utilité de dramatiser la situation. On a un déficit qui est réel, qui va être durable et qu'il faut attaquer. Pour autant, les efforts nécessaires pour pouvoir le combler ne sont pas de l'ordre que tout le monde doit reporter de 3 ans son départ en retraite, comme pourrait le laisser entendre l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits de 62 à 65. En réalité, on a besoin il y a déjà des mesures qui ont été prises et on a besoin en partie de les accélérer, de les amplifier si on voulait simplement obtenir l'équilibre du système de retraite. C'est quelque chose qui est finalement moins dramatique que ce qui pouvait parfois être présenté.
Alors, on voit qu'Emmanuel Macron est quand même très pressé. Est-ce qu'il faut voir l'ombre de Bruxelles quand même planer au-dessus de la tête du chef de l'État ?
Alors, plutôt que l'ombre de Bruxelles, c'est une partie de son programme économique qui est ou pour lesquels la réforme de retraite est importante. C'est-à-dire que dans la présentation du programme qu'il a fait lors de la dernière campagne présidentielle, il y a le fait qu'il n'y a pas d'augmentation de prélèvements obligatoires et en même temps, il y a des volontés d'investir dans des dépenses publiques sur plusieurs aspects. Et donc, si on ne fait pas ou si le gouvernement ne parvient pas à mettre en place une réforme des retraites pour pouvoir équilibrer le système, ça veut dire qu'une partie de ces ressources devront être consacrées à combler le déficit du système de retraite et non pas à être orientées vers d'autres dépenses publiques qui pouvaient avoir comme objectif, alors sur l'éducation, la santé et d'autres systèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, les mesures de réforme du système de retraite viendraient financer autre chose. Ça veut simplement dire que si on ne comble pas le déficit, eh bien, c'est une partie de des ressources qui ne pourront pas aller à d'autres sujets de dépenses publiques.
Alors, on a parlé retraite, non pas en 30 questions, mais je vous remercie d'être passé sur Europe 1 ce matin. Merci Antoine Bozio, je rappelle que vous êtes économiste, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales et que vous travaillez également, vous dirigez également l'Institut des politiques publiques. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Et à 7h18 sur Europe 1, on vous remercie d'être en train de vous réveiller en notre compagnie. Et justement, Clotilde Dumay est là pour l'Info Express.
C'est un procès très attendu en Belgique. Il devait débuter à la mi-octobre, mais le procès lié aux attentats djihadistes de 2016 va être reporté de plusieurs semaines. C'est une décision de la Cour d'appel de Bruxelles qui demande une mise aux normes du box des accusés. Ces attentats ont fait 32 morts et plus de 300 blessés à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles. Environ un millier de personnes se sont constituées partie civile pour le plus grand procès jamais organisé en Belgique. Les autorités ukrainiennes annoncent la fin de l'exhumation des 447 cadavres enterrés dans une forêt près d'Izium. 30 d'entre eux présentent des signes de torture d'après le gouverneur de la région de Kharkiv, dont certains corps d'hommes émasculés. Dans le même temps, la Russie a ouvert les référendums d'annexion dans 4 territoires ukrainiens. Le G7 appelle tous les pays à rejeter ces scrutins. Le président américain Joe Biden veut infliger de nouvelles sanctions économiques rapides et sévères à Moscou en cas d'annexion. Et puis le film Saint-Omer représente représentera la France aux Oscars. Le long métrage d'Alice Diop a déjà remporté le grand prix du jury et le prix du premier film à la Mostra de Venise. Il s'inspire d'une histoire vraie et raconte le procès d'une immigrée sénégalaise accusée d'avoir tué son bébé en l'abandonnant sur une plage. La cérémonie des Oscars aura lieu le 12 mars prochain à Los Angeles. Le dernier film français à avoir remporté l'Oscar du meilleur film international, c'était Indochine de Régis Varnier en 1993.
Merci beaucoup Clotilde. Dans un instant, Mathieu Alterman est avec nous. Il pose son œil sur notre époque et vous allez l'entendre. Oui, Jean-Luc Godard a des héritiers, mais pas forcément ceux que vous imaginez.
Europe Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
Allez, comme tous les week-ends, on retrouve Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu.
Bonjour Lénaïque.
Alors vous posez votre œil affûté ce matin sur les chansons et la nouvelle vague.
Jean-Luc Godard vient à peine de nous quitter que nombreux nous rappellent les liens étroits entre la nouvelle vague du cinéma et la littérature. Ce qui est bien entendu vrai pour Le Mépris, adapté du livre d'Alberto Moravia, ou encore de Jules et Jim de Truffaut, qui adaptait à l'écran le livre de Henri-Pierre Rocher. Mais il y a un lien encore plus serré entre Nouvelle Vague et chansons françaises.
Alors ça fait un peu moins chic, mais il est bon de rappeler quand même certains faits.
Ben, ça se vérifie depuis le début du mouvement, à savoir les 400 coups de Truffaut et cette mélodie éternelle de Jean Constantin. Eh bien, il s'agissait de l'instrumental de sa chanson « Comment voulez-vous ?»
Comment voulez-vous faire confiance aux femmes quand c'est le que j'aime ?
Dans Pierrot le Fou, il y a une autre chanson qui va devenir cultissime pour Anna Karina, évidemment.
Et malgré le fait que Godard fera dire à Belmondo dans les dialogues, la musique après la littérature. Mais il reste en effet cet air charmant.
Maligne de chance, dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses ?
Ce que j'en pense.
De son côté, François Truffaut filme une Jeanne Moreau chantante dans Jules et Jim avec un titre indispensable au film qui en sera sa signature.
On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé.
Et après, c'est imparable, Mathieu, tous les réalisateurs de la Nouvelle Vague vont glisser des chansons dans leurs histoires.
Exactement, telle Agnès Varda dans Cléo de 5 à 7 sur les notes de Michel Legrand.
Je suis une mère.
Ou encore son mari à la ville, Jacques Demy, dans Lola avec Anouk Aimée.
C'est moi, c'est Lola.
Finalement, littérature et chansons n'ont jamais fait aussi bon ménage que dans ce début des années 60, alors si moderne, au point que parfois, un tube réussit à éclipser le film qu'il était censé accompagner. C'est le cas de Serge Gainsbourg dans la chanson du film Oublié, du cofondateur des Cahiers du cinéma, Jacques Doniol-Volcroze, sorti en 1960, et dont il ne reste que le titre que voici, L'eau à la bouche. À demain.
À demain, Mathieu.
Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche.
L'eau à la bouche, évidemment, de Serge Gainsbourg sur Europe 1.
Europe 1.
Et à 7h25, on continue l'aventure musicale de cette matinale avec Fabrice Laffitte. Bonjour Fabrice.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
Alors on a l'habitude hein, maintenant, toutes les semaines, on vous retrouve pour découvrir l'histoire d'une chanson. Aujourd'hui, on va parler de Johnny. À 14 ans, Jean-Philippe Smet, futur Johnny Hallyday, découvre le rock'n'roll avec cette initiation au rock du cinéma avec Loving You, avec Elvis Presley dans le rôle principal.
Nous sommes en 1957 et pour l'anecdote, c'est de ce personnage principal que joue Elvis qu'un autre chanteur tire son nom d'artiste, Dick Rivers. Alors là, Johnny Hallyday est totalement subjugué par ce nouveau courant musical qu'est le rock'n'roll. Et encore plus par ce morceau du King, Heartbreak Hotel, qu'il décide de traduire en français sous le titre « Je me sens si seul ». C'est un an plus tard, en 1958, qu'il enregistre sa version sur un magnétophone emprunté à son ami Jean-Pierre Garlin. C'est l'été, Johnny s'installe au bord de la piscine de Levallois-Perret et s'accompagne de sa guitare. Écoutez bien cet enregistrement original, dont il faut excuser la médiocre qualité.
Toujours bleu, 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 bleu.
Il faut pourtant attendre 74 et la plume de Long Chris pour que Je me sens si seul devienne à l'hôtel des cœurs brisés.
Ce titre sort seulement en face B du 45 tours à propos de mon père et passe quasiment inaperçu auprès des fans du Taulier. Au passage, surnom que Johnny ne supportait pas. C'est en 1984 que Johnny Hallyday interprète pour la première fois « Je me sens si seul » sur la scène du Zénith à Paris. Le public ignore alors que cette chanson date de 1958 et pense qu'il s'agit d'une nouveauté.
Johnny Hallyday à l'hôtel des cœurs brisés en 1974. Merci Fabrice, qu'est-ce qu'on écoute demain ?
Un ouragan musical, à tel point que Michael Jackson invitera son interprète en studio pour participer à l'un de ses titres.
Merci beaucoup Fabrice, vous restez bien sur Europe 1, le journal de Clément Barguin arrive dans un instant, à tout de suite.
Europe Matin Weekend. Léna Aigmonier.
Un week-end qu'on vous souhaite excellent, bien entendu, à l'écoute d'Europe 1. On fait tout de suite le point sur l'actualité avec le journal présenté par Clément Barguin. Bonjour Clément.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. La Dame de Fer plongée dans le noir dès 23h45. La Tour Eiffel n'échappe pas à la sobriété énergétique, une mesure qui inquiète certains commerçants.
Famille, religion et patrie, voilà le credo de la coalition des droites qui pourrait bien arriver au pouvoir en Italie. Les élections législatives se tiennent demain.
Paquet à moitié vide, film plastique superflu sur emballage, une association de consommateurs épingle les industriels peu enclins à réduire leur consommation de plastique.
Au programme de votre prochaine demi-heure sur Europe 1, la une de Paris Match avec la reconquête en Ukraine. Par ici les sorties où nous revisiterons notamment les années 90 avec les cultissimes Pixies et puis comment rénover sans polluer. Christophe Bordet vous donnera des conseils dans sa chronique immobilier. Ce sera juste avant le journal de 8h. La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, de fortes pluies sur le sud-est, bien visibles déjà sur les images satellites et des averses bien soutenues entre Caen et Calais, ailleurs plus ou moins gris et pluvieux.
Et on y revient à la fin du journal. Clément, la capitale n'y échappe pas, l'heure est aussi aux économies d'énergie à Paris.
Oui, des bâtiments publics éteints plus tôt, l'hôtel de ville, la pyramide du Louvre. Et depuis hier, même la tour Eiffel s'éteint à 23h45 au lieu d'une heure du matin. Pour les commerces alentours, la Dame de Fer plongée dans le noir à 7h06 n'est pas forcément une bonne nouvelle, Johan Tritz.
Posés sur une terrasse du 15e arrondissement de Paris, quelques amis prennent un verre avec vue sur la tour Eiffel, sans illumination.
C'est dommage, mais bon.
Peut-être ouais, 23h45, c'est un peu tôt. Fin...
Franchement, moi, ça ne me dérange pas spécialement, non.
Le plus connu des monuments parisiens fait tomber son habit de lumière 1h15 plus tôt. Et pour Thomas, responsable de ce bar parisien, cela va sans doute changer certaines habitudes.
Peut-être qu'on aura moins de clients, peut-être qu'ils sortiront tard. Ils vont s'habituer avec la tour Eiffel à peut-être venir plus tôt au restaurant et partir plus tôt.
Ce qui pourrait réduire le nombre de clients, une décision assumée par la mairie de Paris et son adjoint au climat, Danler, qui cherche à faire une économie d'énergie de 10%, soit 10 millions d'euros en moins sur la facture.
Ça ne va pas gâcher le rayonnement de la ville et je pense que les Parisiens et les commerçants saisissent de mieux en mieux l'intérêt de ces mesures.
C'est le cas du responsable de bar, Thomas, compréhensif tout en proposant une solution.
Il faudrait peut-être genre le week-end l'éteindre aux heures habituelles, mais la semaine... Il y a moins de gens qui sortent, c'est pas forcément nécessaire de laisser les météos aussi tard.
Pour le moment, aucune date de retour à la normale n'a été annoncée.
Le reportage de Johan Tritz pour Europe 1.
Nous prenons à présent la direction de l'Italie, Clément, où l'Alliance des droites pourrait bien arriver au pouvoir.
Elle est en tout cas favorite des élections générales qui se dérouleront demain. Les deux chambres du Parlement seront renouvelées, un nouveau gouvernement constitué. La coalition emmenée par l'extrême droite semble en passe de l'emporter. Le reportage à Rome de notre correspondant Antonino Gallofaro.
Les leaders de droite sont certains de leur victoire. Ils se sont donc tous retrouvés à Rome pour clore ensemble leur campagne électorale. Comme un chauffeur de salle, c'est l'éternel Silvio Berlusconi qui a ouvert leur meeting.
L'Italie ne peut pas être gouvernée par la gauche.
Devant lui, une mer de drapeaux de Fratelli d'Italia, la formation de son allié, Giorgia Meloni. La députée romaine est favorite pour devenir la première femme première ministre Federica en est convaincue.
On voudrait un changement. J'aimerais une femme leader. Je crois en sa cohérence. Elle ne s'est jamais vendue. Elle n'a jamais fait de compromis. Elle n'a jamais participé à des gouvernements techniques. Et je crois que cette fois, les Italiens choisiront Fratelli d'Italia comme premier parti.
Même les militants de la Ligue de Matteo Salvini hésitent à voter pour elle. C'est le cas de Pierluigi.
Elle a toujours maintenu la même ligne, dans le bien comme dans le mal. Elle n'a jamais lâché. Peut-être qu'elle pourra nous aider, je l'espère.
Pierluigi devra se décider d'ici demain. Mais selon les derniers sondages, Giorgia Meloni, à elle seule, devrait recueillir un quart des votes des Italiens. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.
À l'étranger, toujours, le G7 appelle tous les pays à rejeter les référendums d'annexion de régions ukrainiennes organisés par la Russie.
Oui, le scrutin est ouvert dans les régions séparatistes de Donetsk et Lugansk. C'est dans les zones sous occupation russe, à Kherson et Zaporijja. Les votes s'achèveront mardi, mais le président américain Joe Biden a d'ores et déjà prévenu. Les États-Unis travaillent avec leurs alliés pour infliger de nouvelles sanctions économiques rapides et sévères en cas d'annexion. De son côté, Volodymyr Zelensky appelle le monde a condamné ce qu'il qualifie de pseudo-référendum.
7h35 sur Europe 1, bienvenue à tous. Alors que l'heure est à la sobriété énergétique avec la situation dont on vient de parler en Ukraine, eh bien certains industriels ne jouent pas le jeu.
Paquet à moitié vide, sur emballage, il y a toujours trop de plastique sur les étals de nos supermarchés. La loi anti-gaspillage de 2020 fixait pourtant des objectifs de réduction d'emballage, mais certains industriels ne font pas assez d'efforts. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par une association de consommateurs, Barthélémy. Philippe.
Eh oui, le plastique, c'est loin d'être fantastique pour la planète et pourtant certaines marques continuent à en abuser. L'association CLCV a passé au scanner 250 produits alimentaires. Conclusion, on retrouve des films en plastique totalement superflus autour de certaines boîtes de thé ou des plaquettes de chocolat. L'association épingle aussi des paquets d'amandes ou de ravioles qui contiennent, écoutez bien, jusqu'à 55% de vide. Une pratique que dénonce François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs.
On a un certain nombre de produits qui ont tendance à vendre du vide. Dans l'emballage, qui est d'une très grande taille, le produit n'occupe que les deux tiers, voire que la moitié de la place. C'est au-delà de l'écologie, hein. C'est vraiment une question quand même de loyauté du commerce.
Heureusement, ces packaging trompeurs ne concernent qu'un petit nombre de produits. L'enquête décerne même quelques bons points, des pizzas sans boîte, des fromages blancs qui ont abandonné leur couvercle rigide. Vous l'aurez compris, CLCV cherche à faire évoluer les habitudes de consommation des Français pour pousser les industriels à réduire leur production de déchets et ainsi protéger la planète.
Les précisions de Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
On termine en musique, c'est le retour de la Technoparade, Clément.
Oui, après 2 ans d'absence, la Technoparade fait son grand retour. Tour et parmi les chars qui s'élanceront, il y aura Marie Jiquel, celui de la DJ ukrainienne Xenia.
Il est loin le temps où Xenia Oua jouait de l'accordéon dans sa province de Ternopil, dans l'ouest de l'Ukraine. Star dans son pays, très connue par le monde de la nuit, Xenia Oua a également monté son label de musique électronique à Kiev. Mais ça, c'était avant la guerre, la jeune femme a dû quitter l'Ukraine, vinyle sous le bras. Ces platines ont depuis fait vibrer la cour de l'Élysée pour la fête de la musique et fait danser le couple présidentiel.
Pour redire aussi la solidarité qui est la nôtre à l'égard de l'Ukraine.
Xenia Oua revient donc ce samedi en invité d'honneur sur le char de Technopol, celui des organisateurs. À ses côtés, le char de l'Institut du Monde Arabe et celui du français Di Avner.
Marie Jiquel du service culture d'Europe 1 et les 11 chars de la Technoparade s'élanceront à 14h.
Merci beaucoup Clément Barguin, à tout à l'heure. Et justement, il y aura de la pluie à la Technoparade, mais il y a des fortes pluies ailleurs aussi, Valérie Darmon.
Absolument, les naïques. Alors, hier soir, les plus orageux se sont mis en place sur le bassin aquitain, gagnant rapidement Midi-Pyrénées, le Roussillon. Il est tombé beaucoup d'eau, mais le ciel est en train de se calmer sur ces régions. Les plus orageux se renforçant cette fois entre le Vaucluse et le Var. Il va tomber en très peu de temps, 30 à 60 mm de cumul de pluie, donc très localement. À la mi-journée, les orages vont balayer les Alpes-Maritimes, pouvant déverser là aussi de fortes lames d'eau. Ce soir, c'est la Corse qui va subir cet épisode de fortes pluies et d'orages. Ces pluies qui vont traverser l'île d'ouest en est. Et c'est dans la nuit donc prochaine, la nuit de samedi à dimanche, que les orages vont s'évacuer vers l'Italie, mettant fin à ce bref, mais parfois puissant épisode d'intempéries. Ailleurs, c'est pas mieux, c'est gris et c'est pluvieux quasi partout.
Merci beaucoup Valérie Darmon, pas très réjouissant ce programme. Il est 7h38 sur Europe 1, on vous souhaite quand même un bon réveil. La photo de Paris Match, comme tous les samedis sur Europe 1. Bonjour Caroline Mangez.
Bonjour Léna.
Directrice de la rédaction de Paris Match. Vous avez eu le nez creux, hein, puisque vous avez envoyé Bernard-Henri Lévy en reportage en Ukraine, au moment où on est vraiment au cœur, mais au cœur de l'actualité là cette semaine. Hein.
Alors, rendons à César ce qui est à César. C'est Bernard-Henri Lévy qui nous a proposé de partir à ce moment-là pour un périple dont on parle depuis l'été, mais qui est un peu audacieux, parce que comme vous le savez, Bernard-Henri Lévy n'est pas un journaliste ordinaire. Il est aussi un philosophe, il est aussi haï des Russes. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour comprendre à quel point, là, on l'accuse d'avoir orchestré les massacres d'Izium, d'en avoir fait une mise en scène, etc. C'est quasiment... Donc c'est extrêmement risqué, plus que pour un journaliste lambda, d'aller en Ukraine. Mais effectivement, il est arrivé au lendemain du début de la contre-offensive, le 9 septembre. Il a longé avec son photographe Marc Roussel toute la ligne de front qui borde le Donbass, donc cette région qui est au cœur du conflit où cohabitent des Ukrainiens et des séparatistes pro-russes. Et il a ramené un fantastique reportage inédit parce qu'effectivement il était le seul là-bas et en plus il était escorté par le commandant en chef de l'armée ukrainienne, donc il a vu de nombreuses choses.
Alors voilà, je découvre les photos, il y a le récit évidemment également, ce sera évidemment à l'actualité de la semaine. Un match qui est quand même, on va le dire vite fait, la une est consacrée tout de même encore à la reine Elisabeth II avec ses funérailles royales. Cette fois-ci, c'est bien, on voit les tenues en fait.
Alors, le grand reportage en Ukraine, 10 pages au cœur d'un océan d'hommage, dernier hommage à la reine et ses funérailles avec 48 pages de textes et de photos. On a des textes d'Irène Frein, de Stéphane Bern. On aimait beaucoup Elisabeth II à Match. 48 couvertures du coup maintenant et ces photos qui sont historiques.
Et c'est ça qu'on aime chez Match, c'est justement cet éclectisme. Merci beaucoup Caroline Mangez, directrice de la rédaction de Paris Match.
Merci Lénaï.
Et il est 8h20 sur Europe 1. Bienvenue dans votre matinale week-end. Dans un instant, toutes les idées sorties, ciné, musique, BD avec Stéphanie Loirs, Laurie Choleva et Sébastien Bordenave. À tout de suite.
Réveillez-vous. Informez-vous. Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1.
Et avec votre rendez-vous du samedi, par ici les sorties, Laurie Choleva, Stéphanie Loire, Sébastien Bordenave. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Avec quelque chose qui va tous nous surprendre, Laurie, on va commencer par vous et le cinéma. Une oui. belle-mère qui a un beau rôle.
Eh oui, ça change hein, de la marâtre de Blanche-Neige ou de Cendrillon. Et moi, en tant que belle-mère, je suis très heureuse que ça change d'ailleurs. Le film s'appelle Les enfants des autres. C'est le nouveau film de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira. Oui, encore Virginie Efira, mais j'ai envie de dire encore et toujours puisqu'on l'aime beaucoup. Elle est éblouissante dans le rôle de Rachel, une quadra sans enfant qui va tomber amoureuse de son professeur de guitare joué par Roche Dizem, mais qui va également tomber sous le charme de sa petite fille de 4 ans. Seulement, voilà, Rachel va vite se rendre compte qu'aimer les enfants des autres, c'est aussi s'exposer à souffrir.
Mais si tu crois un jour que...
Elle a 5 ans. Elle va t'apprendre qu'à cet âge-là, ça ne veut absolument rien dire.
Tu dirais que tu fais semblant de ne pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Que je resterai une figurante.
T'exagères.
Un film qui fait voler en éclats donc les stéréotypes sur la figure de la belle-mère qui était souvent représentée, comme on vient de le dire, de façon négative. Oui. Au cinéma, eh bien Rebecca Zlotowski, elle aborde cette place avec délicatesse. Elle aborde aussi le thème du désir de maternité à 40 ans, lorsque ça devient plus compliqué. Oui. C'est un film doux et mouvant sur ce désir de maternité et aussi sur la question de la transmission.
Alors, avec une très belle, je me permets, de très belle bande originale aussi, parce qu'il y a toujours une très belle musique dans les films.
Et Françoise Hardy qu'on entendait là, justement à l'instant.
C'est vrai.
Laurie, il y a un autre film. Alors on va complètement changer d'atmosphère, mais c'est aussi une forme de transmission. On va peut-être amener nos enfants voir un classique maintenant.
Bah exactement. Bah je vous conseille hein, surtout d'aller rattraper le retard si vous n'avez jamais vu Avatar, voilà. Puisque Avatar ressort au cinéma, le chef-d'œuvre de James Cameron, le plus gros succès de l'histoire du cinéma quand même. Hein. Plus de 2,8 milliards de dollars récoltés à travers le monde. 9 nominations aux Oscars, dont 3 remportées. C'est vraiment un film qui a marqué l'histoire du cinéma en donnant vie, hein, vous vous souvenez tous, de ces grands êtres bleus qui vivent en harmonie avec leur écosystème luxuriant.
C'est très d'actualité.
C'est ça, c'était un mélange entre les Schtroumpfs et E.T. En tout cas, 13 ans après sa sortie, le film ressort donc dans une version totalement inédite et remasterisée. Il faut savoir que mercredi, le film a tout explosé box-office. Hein. Plus de 40 000 entrées juste mercredi, premier jour de sa sortie.
D'accord.
Et autre info, Avatar 2 sortira le 14 décembre. Donc c'est bien d'avoir vu le 1 comme ça.
Comme ça, on peut se mettre en forme avant les fêtes de fin d'année. C'est pas choisi au hasard, j'imagine, cette sortie d'Avatar 2. Sébastien, vous nous parlez BD, hein, évidemment, comme chaque week-end, avec un album de Bastien Vivès. Qui est-ce ?
Un génie. Un génie controversé, un génie parfois incompris.
Frère de Gérard Vivès ?
Non. On va enquêter. Ce qui est formidable avec Bastien Vivès, c'est que tout semble glisser sur lui comme le crayon de son talent sur la feuille A4 de son indifférence. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, Bastien Vivès approche la quarantaine, mais physiquement, il ressemble toujours à un ado endormi avec des cheveux longs et des lunettes rondes. Il a publié des mangas, des romans graphiques, de grands albums cartonnés à la psychologie subtile et aussi des mini-parutions à l'humour potage. Concrètement, il est capable de produire une œuvre romantique et douce, comme son dernier album qui s'appelle Dernier week-end de janvier, comme il a sorti aussi cet été une petite BD à 13€ qui s'appelle Burnout.
Avec un E ou sans E ?
Avec un E. Et qui raconte comment un Premier ministre est politiquement déstabilisé parce que sa passion du X a été rendue publique. Le Premier ministre s'appelle Daniel Poutre-en-Bois. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de surmoi dans les bandes dessinées de Bastien Vivès, mais que cela ne vous empêche pas de découvrir sa dernière BD. C'est l'histoire d'un dessinateur pas super sexy. Il a une moustache et un week-end de libre loin de sa famille, puisque c'est le festival d'Angoulême. Il dédicace des albums de façon nonchalante. Quand tout à coup, une femme au charme mystérieux lui demande un dessin pour son mari, commence alors une séduction à base de non-dits dans un espace-temps et un lieu réduit. C'est toute l'ambiance qui est dessinée par le génie génial de Bastien Vivès. Si vous ne connaissez pas ce garçon et que vous lisez cet album, vous aurez très certainement l'envie irrésistible de lire les précédents. Là, c'est Dernier week-end de janvier chez Casterman.
Bel ouvrage,
et Lénaïgue, tant que je vous tiens.
Oui.
C'est breton, j'imagine, Lénaïgue.
Et que vous êtes perspicace.
J'ai reçu et je vous offre Tout est bon dans le breton. Il y a deux tomes. C'est une BD d'humour. Il y a notamment des vraies revues de presse bretonnes avec des vrais titres de journaux bretons, comme par exemple « Les gendarmes interviennent à Trégastel pour une crêpe pas assez sucrée » ou alors « des bretons ont voulu appeler leurs jumeaux Babor et Tribord ». Voilà, c'est cadeau, c'est la BD, elle est de Alto et de Fabien Delettre.
C'est du cliché, mais on aime bien, c'est du cliché sympa.
Oui,
on aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors Stéphanie, aussi avec vous, on va remonter un peu dans le passé avec un groupe que moi, j'adore.
Je
suis une fan. Je les ai vus au Parc des Princes,
il y a
quelques années.
Je les ai vus en concert.
On va parler ce matin des Pixies.
Ouais, groupe de rock le plus célèbre de la vague rock alternative des années 90, que vous incarnez à merveille, Lénaïgue.
Ah oui, j'adore.
Avant de vous parler de l'actualité de Pixies qui est de retour dans les bacs, un petit coup dans le rétro, un petit coup d'œil, pardon. avec l'un de leurs plus grands tubes, Where Is My Mind, c'était sur l'album Surfer Rosa en 1988. Voilà, pourquoi se priver de ce plaisir d'écouter ce tube. Alors Pixies n'a rien perdu de sa superbe, mais nous le prouve avec un nouveau single très efficace intitulé Dregs of the Wine, qui signifie le lit du vin, ce qui nous teinte un petit peu les lèvres quand on boit du vin rouge et qu'on parle pendant longtemps. Le premier extrait de cet album à venir, qui sera publié le 30 septembre prochain, le disque va s'appeler Dogrel. Alors fidèle à ses habitudes, vous qui les connaissez, Lénaïgue, le leader de la formation s'appelle Frank Black et il y déclame une fois de plus des paroles ésotériques à tendance un peu sombre. Il est question de dompteurs de lions, de Van Halen, de drogue et de Los Angeles.
La voix bouge pas, hein?
Ouais, ça bouge pas.
Il y a le Rolling Stone un peu, non?
Ouais.
J'ai eu quelques influences.
Ça va, il y a Pierre comme référence. Ouais. Ça vous va, les Naïcs?
J'adore. Je vais l'acheter.
Bon, très bien.
Mais moi, je suis toujours CD, donc je vais acheter le CD, je pense, pour qu'on va bien mettre. Il y a une autre actu musique qui concerne cette fois une jeune chanteuse française qui a fait partie du duo Thérapie Taxi.
Oui, Thérapie Taxi. Alors cette chanteuse, c'est Adé. Elle a passé 8 ans au sein de la formation Thérapie Taxi avec Raphaël Zaoui. Elle a décidé de prendre un virage en solo. Elle publie son premier album. Mais avant d'aller de l'avant, encore un petit coup d'œil dans le rétro. Pour ceux qui seraient passés à côté de Thérapie Taxi, des titres, des tubes qui ont scellé toute une génération qui s'est retrouvée dedans. Ça sonnait comme It's All, par exemple. Je vous sens moins emballé que sur les Pixies. Hein. C'est très générationnel. Aujourd'hui, Adé, elle publie son tout premier album solo intitulé Et alors. Je vous laisse découvrir l'un de mes titres préférés sur cet album, aux sonorités très pop-folk, à l'esthétique résolument country, qui est d'ailleurs enregistré sur les terres sacrées du genre à Nashville.
Ça, j'aime bien. Ouais.
Alors ça, c'est parfait pour démarrer une journée le samedi matin.
Exactement.
Playlist du bonheur du week-end.
Eh ben, on va l'écouter, on aime beaucoup. J'aime bien. Finalement, j'aime beaucoup. Ah aussi. Ouais.
La diversité dans la musique des Pixies à Adé. L'album s'appelle Et alors, et il vient tout juste de sortir, il est tout croustillant.
Et on adore cet éclectisme sur Europe 1. Merci beaucoup à tous les trois.
À la semaine prochaine.
Europe Matin Week-end.
Quasiment 8h05 sur Europe 1 lors du fil info de Clément Barguin.
Face à l'explosion des factures d'énergie, les producteurs de fruits et légumes réclament une aide de l'État. L'interprofession demande que la filière bénéficie d'un bouclier tarifaire. Certains producteurs pourraient voir leurs factures multipliées par 10 lors du renouvellement de leur contrat pour 2023. L'ouragan Fiona s'apprête à toucher le Canada. Les services météo s'attendent à un événement historique. Fiona a déjà tué 4 personnes à Porto Rico, une en Guadeloupe et 2 en République dominicaine. Et puis, plus de 1800 supporters de Liverpool vont porter plainte contre l'UEFA. Les fans des Reds demandent des comptes après les incidents survenus au Stade de France le 28 mai dernier lors de la finale de la Ligue des Champions.
Merci beaucoup Clément. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure, dans le journal de 8h. A tout de suite.
Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
Samedi avant le journal de 8h, bienvenue chez vous, le rendez-vous logement d'Europe 1. Les dernières infos, les conseils pour être bien chez soi. Bonjour Christophe Bordet.
Bonjour à tous, amis propriétaires et locataires.
Qu'est-ce que vous faites, Christophe ?
Bah, vous voyez pas, je suis en train de bricoler.
C'est tôt.
Je rénove avec des matériaux, des produits non polluants, bons pour la planète. Oui, c'est possible de construire, de rénover en faisant attention à la nature, à sa santé. C'est important. Et il y a plein d'entrepreneurs qui l'ont bien compris. Exemple parmi d'autres avec Aurélien Brosse. Il a créé une start-up Little Worker qui prend en charge les travaux chez vous de A à Z. C'est hyper simple.
Pratique.
Vous suivez le chantier à distance via une appli sur le téléphone. Il utilise des peintures saines et écologiques.
Toutes les peintures maintenant à eau sont quasiment sans COV. C'est des composés organiques volatiles. Donc, c'est les molécules qui se relâchent en fait quand on applique la peinture et qui sont nocives pour l'environnement et pour les gens.
Pour les isolants, même topo que du naturel.
On utilise aussi des panneaux de laine de bois qu'on biosourcé. Pour la laine de bois, c'est principalement des chutes de bois qui sont broyées et compactées. Donc forcément, on a un impact qui est bien moindre sur l'environnement que la laine de verre. Sur la laine de verre, on a une réduction de la taille au fur et à mesure du temps. Ça aura beaucoup moins d'effet.
Alors là, pour le coup, Christophe, moi j'apprends quelque chose. La laine de verre, c'est pas terrible en fait.
Bah non, et en plus, il le dit pas là, mais ça pourrit avec l'humidité.
D'accord.
Bref. Ces produits coûtent un peu plus cher et la crise n'arrange rien. Un exemple, le prix du bois explose. Résultat, pour les cuisines installées par les équipes de notre start-upper, ça flambe.
On a eu 2 augmentations sur les cuisines que nous achetons à notre fournisseur en Espagne. 20% en janvier, 30% en mai. La matière première a pris un coût assez important. Et les problématiques, c'est qu'elles changent toutes les semaines. Quasiment. Et ça pose une problématique entre ce qu'on vend à nos clients et ce qu'on achète. Donc, on est obligé d'encaisser une partie des différences de coûts, quoi.
Bah oui, les entrepreneurs font des petits efforts en ce moment. Mais si on veut avoir des bons produits, bah ça a aussi un prix. Il n'y a pas que la crise, bien évidemment. Alors, pour mieux apprécier encore les matériaux, les produits de construction qui font du bien à notre petite planète bleue, je vous conseille d'aller voir et d'aller faire un tour au Salon de l'immobilier bas carbone. C'est au Grand Palais éphémère à Paris jusqu'à ce soir. Allez, Lénaïque, on y va.
Allez, je vous suis, Christophe, mais ce sera juste après le journal de 8h. À tout de suite.